Bonjour mes amis, je suis si heureux d'être ici ce matin. Nous commençons un peu plus tôt. Je regrette toujours qu'il n'y ait pas assez de place pour asseoir les gens. Et je sais que c'est pénible pour vous de rester debout. J'ai annoncé ce matin que cette fois je désirais avoir beaucoup de temps à consacrer à la prédication. Et je pense que ce serait vraiment bien si, pendant le service, certains s'asseyaient et d'autres se levaient, afin de pouvoir tous vous reposer à votre tour. Et si vous désirez sortir et faire quelques pas pendant un moment, étant donné que c'est un long service, cela sera parfaitement en ordre. Ensuite, vous pouvez refaire l'échange. Nous savons qu'ils ont un programme de construction ici au tabernacle, afin de construire une plus grande église qui aura suffisamment de place assise. Je pense que dans l'église ici, on ne peut asseoir qu'environ 250 à 300 personnes. Et il y en a probablement 100 de plus ici en ce moment. Et quand j'arrive, je vois les gens qui font la navette, ne trouvant pas de place pour parquer. Et bien sûr, lorsqu'ils arrivent à la porte et qu'ils voient que les halls sont bondés et qu'il y a encore des gens debout le long des parois et sur la plateforme, alors ils s'en vont. Nous désirons que chacun puisse écouter le message du Seigneur alors que nous essayons de l'apporter. Je désire annoncer immédiatement que j'essaierai de parler jusqu'à midi et ensuite je vous renverrai. Cela donnera le temps à chacun de manger quelque chose. Pendant ce temps, le pasteur Frère Neville aura un service de baptême. Et pour vous qui sortez et allez manger, nous reviendrons ici et j'essaierai alors d'être à la chaire à 14h précise pour reprendre ce message. J'ai souvent été en prière cette semaine, et je n'aurais même pas terminé si je n'avais coupé un quart ou peut-être un tiers de ce que je voulais dire aux gens. Nous vous remercions de votre aimable participation à ces services, pour ce que vous avez fait pour nous, de votre aide et de vos prières. J'ai eu le privilège, il y a quelques instants, de parler à un monsieur et à une dame âgée que nous connaissons comme étant frère et sœur Kidd, qui sont restés merveilleusement fidèles au Seigneur tout au long des années. Ils se sont arrêtés il y a quelques instants. Je leur ai dit de passer car je désirais les voir une minute. Et quel privilège ce fut pour moi de parler à ces personnes âgées qui prêchent l'Évangile alors que je n'étais qu'un bébé. Ce vieil Évangile glorieux devient toujours plus précieux à nos cœurs alors que nous approchons de la fin de notre pèlerinage. Il y a quelques tissus de prière posés ici, sur lesquels je désire prier dans un moment. Et maintenant, courbons nos têtes un instant pour la prière. Notre Père Céleste, tu as dit dans ta parole, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et c'est notre but dans la vie d'élever devant une génération de gens qui se perdent Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et je suis si heureux de savoir que je vis au milieu de gens qui croient en lui et qui l'ont accepté comme leur Sauveur. Nous savons en effet qu'après cette heure, qu'après cette vie, il y en a une de l'autre côté qui sera si glorieuse que ces peines et ces heures sombres que nous traversons ici, sur cette terre d'épreuves, nous entrons simplement dans l'orbite maintenant. Et attendons le compte à rebours, car bientôt il viendra un temps nouveau, quand le temps de Dieu sera accompli. Le grand bras qui a retenu le temps aussi longtemps le laissera finalement aller, et son Église quittera cette terre, s'élèvera dans l'espace pour entrer dans un pays où il n'y aura plus ni maladie, ni tristesse, ni vieillesse, ni mort. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, Seigneur, pour t'exprimer notre reconnaissance à ce sujet. Nous sommes si contents de savoir que ce n'est pas pour des choses vaines que nous nous rassemblons, car cela a été prouvé que la plus grande réalité que le monde ait jamais connue, c'est que le Fils de Dieu, qui a fait les promesses, n'est pas mort, mais qu'il est vivant au milieu de nous pour toujours. Nous sommes si heureux ce matin, Seigneur, par-dessus tout, parce que nous savons que même si nous pouvions rester jeunes des centaines d'années pour jouir de ce monde, ce ne serait rien en comparaison du temps glorieux qui est réservé à ceux qui t'aiment. Ainsi, nous essayons de diriger notre frère et notre sœur vers cette grande heure qui s'approche de nous. Et comme nous voyons ce temps arriver, Seigneur, nos cœurs brûlent pour toi, et notre désir est de nous préparer. L'un après l'autre, nous nous acheminons vers la tombe. Nous venons d'ensevelir une sœur qui était au milieu de nous, cette sœur belle, qui s'en est allée rapidement, selon son désir, si rapidement que nous n'avons pu arriver à temps pour prier avec elle. Mais c'était son désir de partir. Et nous voyons combien tu es bon de pourvoir à toutes les choses que nous désirons dans nos cœurs. Tu n'en oublies aucune, tu l'as promis. Nous te prions de faire que les cœurs de ceux qui ne comprennent pas te comprennent aujourd'hui. Conduis les pécheurs à la repentance. Conduis les malades à la connaissance de la guérison divine. Ô Dieu, bénis tes saints et lie leurs cœurs ensemble. Et comme ces bandes s'en vont dans les villes et dans les églises, dans les nations autour du monde, puissent les frères qui sont dans le ministère et qui une fois ont peut-être mal compris, comprennent maintenant, afin que ton Église puisse être préparée. Et maintenant, ô Seigneur, toi qui m'as séparé de ma mère, toi qui m'as nourri tous les jours de ma vie, qui m'as conduit par ta grâce jusqu'à cette heure, je sais que c'était ta volonté que j'explique aux gens pourquoi j'ai agi et fait les choses de cette façon. Puisse cela les frapper de telle façon que les gens aient une meilleure compréhension, Seigneur, de la singularité de ton serviteur. Accorde-nous ces choses, Père, et que ces passages de l'Écriture, ce texte et ces mots que nous avons écrits ici, pendant la semaine, en priant et en étudiant, puissent tomber dans un bon terrain partout où ils ont été entendus. Un terrain qui peut les retenir et les nourrir. Alors, la louange te sera donnée, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour les personnes qui sont dehors dans les voitures et qui ne peuvent entrer, j'attache ici un petit instrument qui leur permettra de brancher leur radio sur 1150 et de recevoir le message directement sur la radio de leur voiture. Et à tous mes amis qui sont ici et là où ces bancs iront, je sens que je dois leur expliquer beaucoup de choses que j'ai dites et faites. Si souvent les gens sont venus vers moi et m'ont dit, notre pasteur dit, pourquoi frère Branham fait-il cela? Pourquoi a-t-il dit ceci? Et qu'est-ce qui lui fait faire cela de cette façon? De tout mon cœur, je puis dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec la meilleure intention. Et tout ce que j'ai dit, je l'ai dit comme venant de mon cœur. Je l'ai fait dans un but. Et j'essaierai ce matin, avec l'aide de Dieu, de vous expliquer ce but par la Bible et pourquoi j'ai fait cela. Dans un groupe de cette importance, il y a probablement beaucoup de pasteurs assis là, et il y en aura encore beaucoup qui entendront ce message. Aussi, je souhaiterais que nous ayons assez de temps pour apporter tout ce que j'ai préparé à leur attention, ainsi que les passages de l'Écriture. Mais pour vous, mes frères, qui n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, vous qui êtes ici ou écoutez les bondes, quand bien même vous ne seriez pas d'accord avec moi sur beaucoup de choses, à cause de ma position envers ce que je crois être juste, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, étant donné que vous pouvez voir cela différemment. Mais j'espère que ce matin, avec l'aide de Dieu, je pourrai vous montrer la raison pour laquelle j'ai pris cette position. Souvent, j'ai réprimandé des églises, des dénominations, des femmes pour leur habillement et des hommes pour leurs actions. Je pense que j'ai soutenu cela entièrement par l'Écriture. Pas une seule fois, et Dieu connaît mon cœur, je n'ai eu un mauvais sentiment envers quiconque. Peu importe s'ils n'étaient pas d'accord avec moi, que nous fussions éloignés comme l'Est de l'Ouest, je les aimais toujours. Et aussi longtemps que j'aurai l'Esprit de Dieu en moi, je continuerai d'aimer son Église et son peuple. Peu importe ce qu'ils font ou comment ils me traitent, cela n'aura rien à voir avec cela. Je les aimerai toujours. Je me souviens qu'il y avait une fois un homme appelé Moïse. Ces gens, nous dirions, dans le sud, qui l'agaçaient constamment, qui le gardaient toujours en mouvement. Pour tout, il murmurait ou se plaignait. Mais quand arriva le moment d'étaler son jeu, et que Dieu dit à Moïse, « Sépare-toi du milieu d'eux, car je vais te prendre et faire de toi une nation », Moïse se jeta en travers du chemin de la colère de Dieu et dit, « Prends plutôt ma vie, mais ne touche pas à ce peuple, bien qu'il soit rebelle, car il se rebellait contre Dieu et contre lui. Cependant, il les aimait tellement qu'il dit, « Prends-moi et sauve-les. » C'était Christ en Moïse. Si un homme, alors que d'autres sont en désaccord avec lui, n'éprouve pas de tels sentiments, alors il y a là, je crois, un manque de Christ. Si de son cœur, non de ses lèvres, mais de son cœur, il n'éprouve pas cela envers l'humanité. Une fois, je fus étonné. Je ne dis pas cela par sens de l'humour. Mais il y avait, lors de réunions à Chicago, un homme de couleur qui était assis là et qui disait continuellement, « Je veux voir le docteur Branham. » Il portait un grand chapeau et sa poitrine était couverte de grandes croix de 20 à 25 centimètres de long et de large. Il était vêtu très bizarrement de robes et portait des bagues curieuses et des colliers. Je dis à frère Baxter, qui était mon associé, « Conduis-le dans la pièce à côté, je le verrai là. » Alors il s'assit et me dit, « Vous regarderai-je comme père, comme révérend ou comme ancien ? Comment dois-je vous considérer ?» Je lui dis, « Si vous m'aimez, appelez-moi frère. » Et lui, par égard pour moi, fit ainsi. Ensuite, il me déclina ses titres. « Oh, cela prendrait bien quelques lignes pour écrire sur le papier les titres de son Église et sa fonction dans l'Église. » Mais il m'a dit une chose qui m'est toujours restée. Il dit, « Je suis intéressé en ceci, frère Branham. Je suis intéressé dans une race, et c'est la race humaine. » Je lui dis, « Alors, serrons-nous la main. » La race humaine, c'est-à-dire chaque individu sur la terre, sans distinction de couleur et de credo, pour lequel Christ est mort, c'est ce qui m'intéresse ce matin. Et j'ai toujours essayé d'en faire mon objectif. Maintenant, je désire lire Et ensuite, simplement, je n'ai pas l'intention de prêcher, parce que ce que j'ai à dire ici me prendra 4 à 5 heures. Ainsi, après environ 2 heures, nous arrêterons et nous irons dîner. Ensuite, nous reviendrons ici à 14 heures. Mais soyez d'ici avant 14 heures, car je désire commencer à 14 heures précises. Soyez d'ici à environ 13h30 si possible, alors nous continuerons à temps. Je dois partir cet après-midi encore pour Tifton en Géorgie, où je dois prêcher demain soir à l'auditorium de l'école secondaire. Ensuite, depuis là, je ne sais pas. Simplement, j'irai où il me conduira. Frère Argenbright et d'autres m'ont appelé d'outre-mer pour commencer une tournée là-bas, et aussi dans l'Ouest, au Canada et autour du monde. Je crois que d'ici la fin de cette réunion, vous aurez davantage de précisions, si Dieu veut bien me parler à nouveau de la façon que cela me fut donné. Alors vous comprendrez mieux, je l'espère. Ensuite, si vous avez des questions à poser, et que sur certains points, vous ne soyez pas au clair, je vous demande alors d'apporter vos Bibles. Quant à ceux qui ont des enregistreurs, vous pouvez obtenir les bandes, les prendre chez vous, et là vous asseoir avec un cœur ouvert, simplement avec un cœur ouvert. Dites, Seigneur, je me suis détendu maintenant, je vais écouter. Alors, quand quelque chose vous choque, arrêtez l'enregistreur et allez consulter les Saintes Écritures. Jésus a dit, ce sont elles qui témoignent de moi, voyez-vous. Regardez dans les Écritures et voyez si cela est vraiment juste. Maintenant, je désire ouvrir. Retournons aux Saintes Écritures. Je vais commencer dans la Genèse et terminer ce soir dans l'Apocalypse. Je crois la parole. Genèse, commençons au chapitre 1er. Je désire lire une partie de cette parole. Ayez vos crayons et vos papiers prêts, car j'ai beaucoup d'écritures à vous apporter. Je désire revenir souvent aux Saintes Écritures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Je désire prêcher ce matin sur la parole parlée et la semence originelle. C'est sur cela que je désire établir mon texte. La parole parlée est la semence originelle. Vous remarquerez que Dieu a dit que cela produise selon son espèce. Quelle que soit la semence, celle-ci doit se reproduire selon son espèce. Cette parole de Dieu est éternelle. Dieu, étant infini, ne peut pas dire une chose et plus tard la changer en quelque chose d'autre, en une meilleure décision, parce que chaque décision de Dieu est parfaite. Une fois que sa parole est prononcée, elle ne peut plus jamais mourir. Elle continue à vivre, elle ne peut jamais mourir, parce qu'elle est Dieu. Sa parole ne peut pas plus mourir que lui ne peut mourir. C'est la raison pour laquelle nous lisons dans le premier chapitre de Saint Jean qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair. La même parole qui fut prononcée au commencement avec son dessein éternel vint et fut faite chair et habita parmi nous, la parole de Dieu. Il y a quelques années, j'ai entendu dire qu'une femme, cela n'est peut-être pas authentique, reçut du radium sur la langue alors qu'elle le mélangeait pour le mettre sur des aiguilles d'horloge et de montre, et que cela la fit mourir. Et des années plus tard, ayant examiné son squelette lors d'une autopsie, ils dirent qu'en le touchant au moyen d'instruments spéciaux, vous pouviez entendre un grondement venant de ce radium qui continuait à agir dans ce squelette. Alors que la mort de cette femme remontait à plusieurs années, le radium continue à agir. La parole de Dieu est toujours vivante, agissante. On m'a dit que si l'on pouvait trouver un instrument assez sensible pour capter la voix d'un homme, que ma voix, par exemple, qui résonne aujourd'hui, pourrait encore être captée dans 10 000 ans. C'est comme si vous laissiez tomber un caillou au milieu d'un étang. Les toutes petites vagues, alors même qu'elles ne sont plus visibles à l'œil, continuent à avancer jusqu'à ce qu'elles frappent la rive. De même, les ondes aériennes de nos voix continuent à voyager tout autour du monde. C'est pourquoi notre voix, ce que nous disons, sera notre jugement. Notre témoignage s'élèvera contre nous. Nous entendrons l'écho de notre propre voix, de nos propres oreilles, à la barre du jugement de Dieu, lorsque son grand instrument captera chaque voix qui s'est fait entendre, chaque mot qui était prononcé à voix basse. Il n'y a qu'une façon d'arrêter cette voix qui nous accuse, c'est de nous repentir. Dieu seul peut l'arrêter. Si elle ne s'arrête pas, elle continue à avancer et vous rencontrera dans l'éternité. C'est pourquoi Dieu, étant parfait, et sa voix éternelle, sa propre voix devra la rejoindre. C'est pourquoi il doit être parfait dans chaque décision. Car lorsqu'il prononce une parole, celle-ci doit aller tout le chemin et revenir au jugement. Si vous étiez vraiment compréhensif, ou si vous essayez de l'être, vous verriez pourquoi j'ai toujours gardé la position que j'ai envers la parole de Dieu. Car toutes les autres choses doivent périr. mais Dieu est éternel. Et sa puissance et sa parole est éternelle. Maintenant, alors que vous étudiez, j'essaierai de parler aussi longuement que possible, afin que vous en compreniez les mots. Et je fais cela pour les bandes aussi. Ceci afin que vous puissiez savoir que cette Bible est la parole de Dieu. Nous savons que nous approchons du jugement et que la voix de Dieu va nous rejoindre quelque part. Car il a été donné à chaque mortel de l'entendre. Les prédicateurs sont responsables de la faire connaître. Et si la voix de Dieu doit rencontrer chaque personne, alors vous devez l'entendre, soit ici, ou alors à la barre du jugement. Ainsi, si l'Église a la voix de Dieu, alors vous devez écouter la voix de l'Église, comme nous le disent les catholiques romains. Mais quant à eux-mêmes, ils sont si troublés par les différences doctrinales qui les divisent, soit la romaine, la grecque et leurs différents types, alors il ne peut y avoir aucun endroit où placer sa foi. Car laquelle est bonne? L'Église romaine est-elle dans la vérité, ou est-ce l'Église grecque, ou l'une des autres églises? Les luthériens sont-ils dans la vérité? Les baptistes, les méthodistes, les presbytériens? Laquelle est dans la vérité, quand on voit autant de différences entre elles? Les uns sont aussi éloignés des autres que les l'Est de l'Ouest. Mais mon opinion, c'est que la voix de Dieu est le juge en tout cela. Ainsi, la voix de Dieu est si parfaite qu'elle doit venir nécessairement d'une source de perfection. Si les hommes l'apportent les uns d'une façon et les autres d'une autre, selon leur doctrine dénominationnelle, alors il n'y a aucune possibilité d'établir sûrement notre foi sur leur déclaration. J'espère que c'est clair, voyez-vous. Car si un dit que c'est de cette façon, s'il dit que vous devez joindre cette Église, seule cette Église a le salut. C'est la version catholique. Les luthériens arrivent et disent qu'ils sont le chemin. Voici les méthodistes qui arrivent avec quelque chose d'autre, les baptistes avec quelque chose d'autre, les pentecôtistes avec quelque chose d'autre. Il semble qu'il y ait là une telle accumulation de confusion. Alors, quand vous apportez cette parole écrite à nos frères, beaucoup d'entre eux disent, « Eh bien, ces jours-là ne sont plus pour nous. » Un autre dit, « C'est seulement de l'histoire. » L'autre dit, c'est un livre de poèmes. Un autre, l'Église a le droit de changer cela. Alors, où en sommes-nous? Où y a-t-il un endroit où faire reposer notre foi? Comme Dieu est éternel, je crois et j'ai toujours cru que si nous devons être jugés par quelque chose, ce sera par la parole de Dieu qui a donné le commandement. Alors, si nous devons être jugés par cette parole, Dieu sera un Dieu injuste en mettant une telle confusion sur la terre et qu'ainsi la pauvre intelligence humaine soit si déroutée qu'elle ne sache pas que faire. Et que le joigne celle-ci et ensuite celle-là. Le pauvre homme qui pense trouver un endroit où la vérité est proclamée écoutera cette dénomination et ensuite une autre dénomination qui lui semblera meilleure, et ainsi de suite. Finalement, il reviendra à la première. Pourquoi? Parce qu'il ne sait simplement pas que faire. Mais si Dieu va juger le monde par quelque chose, ce sera par sa parole. Je crois cela. Et maintenant, mes frères, quand je dis cela, ce n'est pas seulement pour ce petit groupe qui est ici ce matin, mais pour tous ceux qui, dans le monde entier, recevront ces bandes. Je souhaiterais que vous me supportiez un moment et que vous compreniez bien que nous allons au-devant du jugement. Alors, certains d'entre eux font allusion à la version du roi Jacques, ou à une autre version. Maintenant, ils font une version standard ou quelque chose comme cela. Je crois que si Dieu est le Dieu souverain, et il l'est, celui qui est éternel, il doit veiller sur tout. C'est à lui que cela tient. Si je veux aller au ciel où il est, c'est à lui de me fournir une place où je saurai que faire. Un endroit où vous puissiez poser votre main et dire « c'est cela ». Êtes-vous d'accord avec cela? C'est à lui que cela tient. Il sera injuste si je disais « Seigneur, je suis un luthérien » et que l'autre dise « Eh bien, je suis un catholique ». Il y en aurait deux qui protesteraient l'un contre l'autre. Maintenant, que va faire le pauvre homme? Ou que se passe-t-il si l'Église catholique est dans la vérité? Alors tous les luthériens sont perdus. Que se passe-t-il si les luthériens sont dans la vérité? Tous les catholiques sont perdus. Vous voyez, vous devez avoir quelque part un endroit où la foi peut se reposer. Je ne sais pas ce que vous éprouvez à ce sujet, mais pour moi, la Bible est l'infaillible parole de Dieu. Et je crois que Dieu a veillé sur sa parole et qu'il n'y a pas une ponctuation qui ne soit à sa place. Ma fille Rebecca, qui est là en arrière, me disait « Papa, à l'école, nous avons prouvé que le monde est vieux de millions et de millions d'années. Cela n'est-il pas contradictoire à la Bible? Non, lui dis-je, cela ne l'est pas. Bien, dit-elle, mais si l'étude des différentes formations de roc, de stalactites et de stalagmites, prouve que l'eau est tombée goutte à goutte pendant des millions d'années, alors que Dieu a dit qu'il avait fait la terre en un jour, cela ne démontrerait-il pas la fausseté de la Bible? Je lui dis non. Remarquez ce que Dieu a dit à Moïse concernant la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Combien de temps cela a-t-il pris? Ce n'est pas notre affaire. Ensuite, il continue et commence à placer en son temps la semence de la terre. Mais au commencement, il peut y avoir eu des centaines de billions, de trillions d'années, des éons de temps. Mais Dieu créa les cieux et la terre. Point. Cela est réglé. C'est la première chose. Vous voyez, il ne fait pas de faute. Paul, le grand prédicateur, dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter approuvé de Dieu, exposant justement la parole de Dieu. L'étudier avec un cœur ouvert, c'est ce que j'essaye de faire. Ma foi ayant sa source dans la parole, alors je ne peux recevoir une interprétation particulière, car la Bible déclare qu'elle ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. L'Esprit a simplement révélé cela. Je connais le passage de l'Écriture, mais en ce moment, je ne sais pas exactement où cela se trouve dans les Écritures. Mais vous qui inscrivez cela, vous le trouverez. Je crois que c'est dans Pierre qu'il est dit que la Bible ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. C'est pourquoi si un écrivain inspiré a dit « Et si cela est faux ?» Alors combien y a-t-il d'autres parties de la parole qui sont fausses? C'est soit tout juste ou soit tout faux. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Ainsi vous dites, eh bien, au sujet de l'Église, si vous regardez à l'Église, alors quelle Église est dans la vérité? Quelle Église est juste? Vous voyez, vous devez revenir de nouveau à quelque chose sur lequel votre foi peut se reposer. Et pour moi, c'est sur la parole de Dieu, croyant que cette Bible est le programme de Dieu pour l'humanité, et qu'il l'a toujours été. Jésus a dit que les Écritures doivent s'accomplir. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans les Écritures, maintenant, gardez cela à l'esprit, parce que vous qui recevez la bande, vous verrez qu'à la fin de ces bandes, j'y reviendrai. C'est que tout ce qui est dans les Écritures doit s'accomplir. Laissons cela reposer pendant une minute. Voyez-vous, tout ce qui se trouve dans les Écritures doit s'accomplir. Alors, si Dieu a dit quelque chose, vous y êtes. Cela doit s'accomplir. Mais si cela ne s'accomplit pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, s'il se trouve que ce n'est pas la parole de Dieu, alors où en sommes-nous? Prenons quelque chose qui ressemble à Dieu ou faisons autre chose. Comme la Bible dit, mangeons, buvons et soyons joyeux, car demain nous mourrons. Voyez-vous? Si cela n'est pas la parole de Dieu, alors nous sommes tous perdus. Et si c'est la parole de Dieu, Dieu est absolument lié à elle par l'honneur. Le Dieu qui est la fontaine de tout honneur, le commencement de tout honneur, qui est la source de tout honneur, qui est la source de toute vérité, doit tenir sa parole. Et si ceci n'est pas la parole de Dieu, alors qui est Dieu? Où est Dieu? Où y a-t-il un Dieu? Oh, vous dites, frère Branham, je le sens. Oh, les païens peuvent vous dire la même chose de leurs idoles. Les voyages vous marquent quand vous voyez ces choses de vos yeux. Ainsi, je crois que je pourrais regarder et voir ceci. Oui, je crois que si... Je crois parce que je fus changé, parce que je fais aussi cela. Mais souvenez-vous que les païens font la même chose. La moralité en Afrique de certaines de ces tribus ferait que les Américains qui s'appellent chrétiens se sentent honte d'eux-mêmes devant la moralité et la propreté de gens qui adorent des idoles païennes. Ainsi, c'est peut-être Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous, quand vous regardez les choses en face, c'est un grand cercle que vous devez couvrir. Ainsi, vous devez avoir quelque part un endroit où revenir et placer vos mains. Maintenant, prenons les prétentions des luthériens. Elles faillissent. Prenons les prétentions des catholiques. Elles faillissent. Prenons les prétentions des baptistes, des pentecôtistes, elles faillissent. Ainsi, vous ne pouvez mettre votre confiance en elles. Mais il n'y a pas une seule chose écrite dans cette Bible que Dieu n'ait pas prouvé au travers de quelqu'un que c'est la vérité. C'est la vérité. Comme je l'ai souvent dit, peut-être que ma foi ne montera pas jusqu'où celle d'Enoch est montée. Assurément, je ne me mettrai pas sur le chemin de quiconque pourrait y monter. Quelle grande foi! Ces données de base sont la raison pour laquelle je crois la Bible. Et c'est là que je prends mon texte. Maintenant, voilà la chose que je puis affirmer. C'est que je ne crois pas que la Bible se contredit. Et aussi je jette un défi au monde, à n'importe qui prétendrait le contraire. Et je l'invite à venir vers moi et me le prouver. Venez, prouvez-le. La Bible ne se contredit pas. C'est vous qui contredisez la Bible. Dieu ne peut pas se contredire. S'il le fait, alors il n'est pas Dieu. Et si cette parole est Dieu et qu'elle se contredit, alors vous faites Dieu se contredire. Alors, où est votre Dieu? Cela devient quelque peu confus, compliqué, n'est-ce pas? Si Dieu se contredit, il n'est pas plus que moi ou pas plus que vous. Car il peut se contredire. La parole est là, mais elle est cachée aux yeux des sages et des intelligents. C'est pourquoi certains disent que Matthieu 28:19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants, au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que Actes 2:38, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, sont contradictoires. Ce n'est pas contradictoire. Chacun qui est baptisé doit l'être dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas baptisé en utilisant le nom de Jésus-Christ, vous n'êtes pas baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes baptisé dans des titres qui appartiennent à un nom. Si cela n'est pas la révélation correcte, alors la Bible ne serait pas la vérité quand elle déclare que chacun baptisa dans le nom de Jésus-Christ. Mais si la Bible, si tous les apôtres, au travers des âges, baptisèrent au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que Jésus leur ait donné la commission de baptiser dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, alors la Bible se contredit absolument. Mais si vous regardez bien, ce n'est pas le cas. Ils ont fait simplement ce qu'il a dit, pas titre, mais nom. Ainsi, il n'y a aucune contradiction. Combien pourrais-je encore citer de passages que j'ai même inscrit, où les gens présents prétendent qu'elle se contredit. J'ai demandé pendant 25 ans, presque 30 ans maintenant, que quelqu'un me le montre. Cela n'y est pas. Non, monsieur. C'est là la vérité. Toute la vérité est rien que la vérité. Et notre foi se repose là-dessus, sur ce que Dieu a dit. N'essayez pas de l'interpréter. Dites-le simplement de la façon qu'elle le dit. N'y mettez aucune interprétation particulière, et je crois qu'il n'y a rien d'autre. Maintenant, j'espère que si cela fait mal, ce n'est pas moi. J'essaie de dire pourquoi je crois ce que je crois, et pourquoi j'ai agi de la manière dont j'ai agi et fait les choses que j'ai faites. J'essaie de montrer au monde que j'ai fait ceci parce que c'est ma conviction. Je crois que quiconque qui se rend coupable d'ajouter un mot à cette Bible, sa part sera retranchée du livre de vie. Apocalypse 22. Quiconque ajoutera ceci ou retranchera de cela, je ne crois pas qu'un credo, qu'un dogme, que n'importe quoi d'autre, excepté la parole de Dieu littérale, soit le plan de Dieu. Toute autre chose est péché, est vouée à la perdition. Ceci pour chaque homme, chaque credo, chaque dénomination, et pour tous ceux qui ajouteront ou retrancheront une lettre de cette parole. Dieu n'est pas un Dieu du passé qui aurait écrit un livre et l'aurait mis dans les mains d'un groupe d'hommes pour le laisser ensuite subir toutes sortes de changements. Et finalement, l'utiliser pour juger le monde, Dieu qui l'a écrit vit éternellement. Il est vivant et confirme sa parole. En étudiant les bandes, je désire que vous étudiez cette remarque très attentivement, voyez-vous. J'ai commencé avec la Genèse et je suis maintenant dans l'Apocalypse, démontrant que ceci est la parole de Dieu. L'Apocalypse dit que quiconque retranchera ou ajoutera un seul mot à cette parole verra sa part retranchée du livre de vie. Je regarderai dans l'Écriture et je la citerai dans un moment. Apocalypse, le dernier chapitre. Maintenant que nous enseigne le chapitre premier, que dit-on de la parole? Elle est éternelle. Elle ne doit pas être altérée en ajoutant ou en retranchant quoi que ce soit. Voyez-vous? Elle ne doit pas être altérée. Dieu veille à cela. Rien ne doit y être ajouté, rien ne peut y être retranché, car elle est éternelle, voyez-vous. Le fondement que j'essaye de vous apporter maintenant se trouve entre la Genèse et l'Apocalypse. Elle ne se mélangera à rien d'autre. Voici sur quoi nous allons différer dès maintenant jusqu'à 5 heures cet après-midi. Voyez-vous. Voici où nous ne serons plus du même avis. Combien sont d'accord que c'est là le livre du jugement de Dieu et que nous serons jugés selon la parole de Dieu? On n'y ajoutera ni ne retranchera rien. Alors pourquoi cela a-t-il été fait? Nous y arrivons maintenant. Pourquoi cela a-t-il été fait de cette façon, sans discernement? Nous allons trouver cela entre la Genèse et l'Apocalypse, nous conduisant jusqu'à notre temps en passant par d'autres âges. Maintenant, laissez-moi rendre cela vraiment clair pour les bandes. Après que je vous ai dit pourquoi je crois la parole et ce que Dieu a dit à son sujet et qu'il ne faisait rien, ne fallait rien y ajouter et rien y retrancher, je désire parcourir la parole avec vous pour le contexte de ce long message et vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, vous pourrez voir mieux la raison pour laquelle je crois ce que je crois, voyez-vous. Cela ne peut être mélangé et cela ne s'hybridera avec rien d'autre. Cela ne s'hybridera pas. Aujourd'hui, l'hybridation des animaux, du maïs, du blé, pour en faire un produit de meilleure apparence, est chose courante. Mais ce n'est pas bon du tout. C'est pourri. Il n'y a aucune vie en eux. Ils meurent. Ils ne peuvent se reproduire. C'est mort. Car tout ce que nous avons aujourd'hui sur la terre, dans sa forme originelle, est le produit de la parole prononcée par Dieu au commencement. C'est pourquoi un mulet, un animal qui est né bâtard par un croisement de races, ne peut se reproduire de nouveau. Dieu fit un cheval, elle fit un mule, ou plutôt un âne. Vous croisez ces deux ensemble et vous obtenez un mulet. C'est un hybride. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se reproduire. Nous allons toucher la semence du serpent dans un moment. Il ne peut se reproduire. Maintenant, quel est mon texte? La parole parlée est la semence originelle. Je désire prouver cela maintenant. Lisons dans Matthieu 24, 35. Et alors que nous sondons ces Écritures pendant quelques instants, je verrai combien de temps nous avons. Je désire lire ici une parole que Jésus a prononcée. Matthieu 24 est le 35e verset, chapitre 24, verset 35. Cela montre que cette parole est éternelle. C'est donc ce dont nous avons parlé. En vérité, verset 34, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pourriez-vous alors mélanger quelque chose à cela? Non. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 19, j'aimerais lire ceci. Apocalypse, chapitre 22 et verset 19. Voyons ce qui est écrit. Commençons avec le verset 18. Je déclare à quiconque. Souvenez-vous maintenant depuis la Genèse où il prononce la parole. Voyez-vous? Je déclare à quiconque. C'est-à-dire prêtre, pape, évêque, presbytérien, à qui que ce soit. Entends les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Qu'en est-il de vos dogmes? Qu'en est-il de vos credos non scripturaires que vous écoutez? De toutes les dénominations, il n'y en a pas une qui soit excusable. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles, disons que ce n'est pas la même chose, vous savez, voyez-vous, quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Bien qu'il soit un prédicateur, bien qu'il soit un membre d'église pendant toute sa vie, bien qu'il soit un évêque ou un pape, quiconque retranchera un mot, simplement un mot, réalisez-vous que c'est un mot dont Ève douta qui causa tous les maux? Une parole prononcée par Dieu dont Ève douta être la vérité. Et ce fut la cause de chaque maladie, de chaque affection, de chaque bébé qui souffre, de la construction de chaque hôpital, de chaque opération qui ait jamais été effectuée, de chaque mort qui ait jamais eu. Tout cela à cause d'une personne qui n'a pas cru un mot. Vous y êtes. Qu'a essayé de faire Ève? De l'hybrider, de le mélanger avec quelque chose. Vous devez le prendre de la façon dont Dieu l'a prononcé. Cela ne se mélangera avec rien. Non, monsieur. Jésus a dit une fois, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. On m'a dit qu'on ne peut hybrider cette graine de moutarde. Vous ne pouvez la mélanger avec quoi que ce soit. Vous pouvez mélanger d'autres graines, mais vous ne pouvez pas mélanger cette graine, cette semence de moutarde. Vous voyez? Car elle ne s'hybride pas. Et si vous avez ce genre de foi, prenant une parole de Dieu, cela où beaucoup d'évangélistes flanchent, nous y reviendrons plus tard. Quand ils disent, « Oh, nous croyons ceci », elles prennent cette parole, ils peuvent la faire marcher. Mais qu'en est-il de l'autre qui se trouve à côté? Heureux est celui qui observe tous ses commandements. Voyez-vous, il aura le droit d'entrer dans l'arbre de vie, car dehors, les magiciens, les chiens, les fornicateurs. Maintenant, j'ai un auditoire mixte, mais j'ai beaucoup de contexte ici qui est vraiment direct. C'est pourquoi je désire que vous, sœurs, compreniez, voyez-vous, soyez sûrs de comprendre. C'est pourquoi nous croyons que c'est la parole de Dieu. Par conséquent, la parole parlée de Dieu est originelle. Et tout ce que Dieu a créé par sa parole est originel. Et vous ne pouvez pas hybrider après coup quelque chose qu'il a créé. La raison pour laquelle Ève put faire ce qu'elle a fait de sa propre semence, c'est qu'elle n'était pas dans la création originelle. Elle est un sous-produit de l'homme. Mais elle n'est pas de la création de Dieu. Dieu créa tout et ensuite il prit une partie de sa création et il en fit une aide. C'est la raison pour laquelle vous pouvez hybrider un âne et un cheval. Mais cela ne durera pas. C'est la mort. Mais la semence originelle a la vie. Elle revient de nouveau. J'espère que vous pouvez le voir maintenant. La semence originelle a la vie. C'est la raison pour laquelle je pense que les cultes, les dénominations, les organisations meurent. L'histoire prouve qu'elles sont toutes mortes. Elles ne se sont pas relevées. Elles ne se relèveront jamais, elles ne peuvent se reproduire, elles n'ont rien avec quoi se reproduire, elles sont stériles. C'est pourquoi les enfants d'Ève meurent. Je prends mon temps, ainsi les bandes, pour donner aux gens du temps pour étudier. Je ne veux pas être pressé, je veux prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui arrivera depuis là. Mais je désire dire aux gens que même si Dieu me retire un jour de ce monde et que je ne vive pas pour voir sa venue, le message continuera à vivre toujours. C'est vrai, restez avec la parole. Maintenant, souvenez-vous que chaque parole parlée de Dieu est la semence originelle. Dieu planta chaque chose dans la terre par sa parole. Et aussi longtemps que vous restez avec la semence originelle, elle se multipliera et se reproduira. Hybridée-là, elle mourra. Et Ève, la femme, fut la première chose hybride qu'il y ait jamais eu. J'espère que vous n'arrêtez pas vos bandes avant que nous soyons arrivés. Et que nous ayons prouvé cela, vous voyez, pour simplement vous montrer pourquoi elle était une hybridatrice, une épouse. Remarquez, cela apporte à la mort d'essayer de prendre la parole de Dieu et d'y mélanger un peu de sagesse. Voyez-vous? Vous n'êtes pas censé faire cela. Que vous croyez ou que vous ayez de la sagesse pour l'expliquer, dites simplement, Dieu l'a dit et cela est réglé. Dieu l'a dit ainsi et tout est là. Si vous ne pouvez l'expliquer, laissez-le, mais dites simplement qu'il en est ainsi parce que Dieu l'a dit. Vous voyez, c'est cela. Dieu l'a dit. Maintenant, notez bien. Cela ne se mélangera pas. Cela ne doit pas être altéré. Dieu punira celui qui le fait et cela ne cibera à rien d'autre. C'est la parole de Dieu seul. Dieu n'a pas besoin de votre parole avec la sienne. Nous sommes supposés ne pas prononcer notre propre parole. Nous sommes supposés prêcher sa parole, la parole de Dieu. En conséquence, la vraie vie peut seulement venir ou se reproduire selon son espèce originelle. Maintenant, et quand vous étudiez la bande, étudiez cela. La vie V-I-E peut seulement être reproduite selon son espèce originelle, de la façon que cela débuta au commencement. Alors, cela se reproduit. Si ce n'est pas le cas, c'est un hybride et il expire. Certains d'entre eux s'éteignent à la première génération, vous voyez. C'est alors fini. Il ne peut produire une vie correcte, parce que c'était bridé. Dans Genèse 1, 11, la Bible dit, Dieu dit, que chaque semence produise selon son espèce. Quand Dieu dit cela, ce fut réglé. C'est toujours réglé. Que chaque semence produise selon son espèce. La mélanger produit une super récolte. C'est une super récolte de quoi? Écoutez maintenant, d'embryons, la mélanger, j'essaye de les retenir, quel texte je pourrais prêcher là-dessus, mais j'essaie de me garder de le faire. La mélanger produira une super récolte, comme il a été prouvé. Mais quelle sorte de récolte? Une récolte de mensonges, de morts. Hybridez votre maïs, cela donnera une grosse récolte, une meilleure récolte, ayant une meilleure apparence. Mais c'est mort. Replantez-le, il ne peut se reproduire de nouveau. C'est terminé, c'est fini. C'est comme elle, vous voyez. Elle produisit une récolte hybride. Vous pouvez regarder autour de vous aujourd'hui et voir que c'est vrai. Certainement, ce n'était pas le dessein de Dieu. Non, monsieur. Je dois retenir quelque chose à quoi je pense en ce moment. La mélanger produit une récolte hybride. Une récolte hybride est une récolte morte pour ce qui est de la reproduction. Elle ne se reproduira pas. Elle ne le peut pas car Dieu l'a dit. Elle doit produire selon son espèce, alors que vous l'avez hybridée. Maintenant, vous pouvez voir là l'Église, où elle va finir. Elle meurt là, car elle ne peut produire selon son espèce. Pourquoi? Elle est mélangée. Vous ne pouvez rien en faire. Elle est morte, elle est finie. Bon. C'est pourquoi chaque génération a son propre réveil. Une chance lui est donnée de retourner à la parole. Oh, le Dieu souverain, au jugement. Le groupe de John Wesley se lèvera et ces méthodistes empesés d'aujourd'hui répondront de cela. Luther se lèvera. Les catholiques se lèveront. Et ceux qui sont venus après Irénée, Martin, Polycarpe et les autres devront subir le jugement pour avoir hybridé la parole de Dieu à des dogmes. Ce groupe de luthériens qui vint après le réveil de Luther devra répondre de la même chose. Le groupe de baptistes qui vint après le réveil de Smith devra faire la même chose. Celui d'Alexandre Campbell devra faire de même. Elle est pentecôtiste aussi. Lors de ce réveil originel, que le Saint-Esprit tomba et appela un peuple à sortir, et que Dieu essaya de lui faire parvenir sa parole, ils s'organisèrent, s'établirent et formèrent une dénomination. Et à ce moment-là, ils moururent. Vous dites, mais regardez ce qu'ils font. Ils deviendront un peu plus tard, aujourd'hui. Nous sommes en train d'arriver à tous les... Je plante simplement la semence maintenant. Dans un moment, nous allons vous montrer ce qui arriva. C'est pourquoi chaque génération a son réveil et Dieu suscite un homme à qui il confie sa parole et le fait partir avec le message pour cet âge. Et aussitôt que cet homme est retiré de la scène, quelqu'un d'autre s'en empare et l'hybride. Et tout cela retombe. Je pourrais m'arrêter ici une minute. Nous ne sommes pas pressés. Revenez en arrière et vous verrez que c'est exactement ainsi que cela débuta tout au commencement de la Genèse. Lors de la création, Dieu prévut en l'homme sa propre récolte, mais Ève l'hybrida. Vous voyez ce qui arriva? Ce fut le jugement pour Ève. Luther et tous les autres produisirent, Christ produisit, les apôtres et les prophètes produisirent. Jésus n'a-t-il pas dit, lequel des prophètes envoyés par Dieu vos pères n'ont-ils pas persécuté? N'a-t-il pas enseigné qu'une fois un roi envoya son serviteur, et qu'ensuite il envoya un autre serviteur, et encore un autre serviteur, et ainsi de suite, et que finalement il envoya son propre fils, voyez-vous, chaque génération reçue, parce que cela est la répétition de ce qui s'est passé avec Adam et Ève, la première école dans le jardin d'Éden. La moitié fut perdue, les vierges sages, les vierges endormies. La moitié, l'une garda la parole, l'autre hybrida. Il en a toujours été ainsi au travers des âges. Nous prouverons cela par la parole de Dieu et par l'histoire. C'est vrai, l'hybridation. L'hybridation débuta premièrement dans l'Éden et dans la Genèse. Ce fut le commencement. Et cela se termine ici dans l'Apocalypse, à la seconde venue du Christ. Maintenant, souvenez-vous que c'est la raison pour laquelle chaque génération a son propre réveil. Elle reçoit une chance de retourner à la parole. Ensuite, il hybride. Et au lieu de l'apprendre et de continuer, ils vont quelque part d'autre. Ma mission, je crois, et je crois que Dieu m'a appelé à cela, je dois dire des choses personnelles aujourd'hui, car c'est ce que je vous ai dit que je ferai, voyez-vous, et ensuite parler au monde. Quelle est ma mission sur la terre? C'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole, voyez-vous? La venue de la parole qui est Christ. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses, car il est la parole. Voyez-vous? Très bien. Jésus dit dans Jean 3, 5, si vous voulez l'inscrire, c'est Jean 3, 5, nous savons tout cela. Je vais le lire car quelqu'un sur les bandes n'aura peut-être pas la possibilité de le faire à ce moment-là. Je lirai dans Saint Jean au chapitre 3 et au verset 5. Et nous verrons ce que Jésus a dit. Nous pourrions commencer un petit peu avant au verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cela est-il une semence? Chaque parole parlée de Dieu est une semence, c'est vrai. Je vais vous prouver cela dans une minute, où Jésus l'a dit. Chaque parole parlée de Dieu est une semence. Alors, si un homme ne naît de nouveau, pourquoi doit-il naître de nouveau? Il est mort dans la chair dans laquelle il est. Il est un hybride. Il doit naître de nouveau. Pourquoi? Il fut conçu dans le péché depuis le péché d'Ève, enfanté dans l'iniquité et vint au monde disant des mensonges. Il est un menteur pour commencer. Peu importe combien il est adroit, éduqué, etc., il est un menteur. La Bible dit qu'il l'est. Peu importe combien ses parents sont sanctifiés ou n'importe quoi d'autre, il est un menteur dès le commencement. La seule façon qu'il puisse dire la vérité est de prononcer les paroles même de Dieu. C'est la seule manière par laquelle la vérité peut venir. Il est encore un menteur s'il dit quelque chose qui soit contraire à cette parole. C'est très catégorique, mais c'est ce que Dieu a dit. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Voyez-vous, n'importe quelle parole qui sort de sa bouche, qui est contraire ou nie la parole de Dieu, qui la limite à une race ou à une génération ou à quoi que ce soit d'autre, fait de lui un menteur. Exactement. Il doit naître de nouveau et alors il voit chaque parole. La seule manière par laquelle il puisse naître de nouveau, c'est que la vie de Dieu produise en lui cette vie. Une semence doit avoir de l'eau pour croître. Maintenant, si vous mettez une semence de la terre et qu'il n'y ait pas d'humidité dans le sol, cela simplement de la poussière. Elle ne croîtra pas dans la poussière. Elle ne le peut pas. Elle doit avoir un certain pourcent d'humidité, sinon elle ne croîtra pas. N'est-ce pas vrai? La lettre tue, mais l'esprit nous donne la vie, vous voyez? Elle doit avoir de l'humidité pour croître. Sa parole est la semence. Pour prouver cela, lisons dans Luc, chapitre 8, verset 11, et voyons si cela est vrai ou pas. Si la Bible dit que sa parole est la semence. Luc, chapitre 11, ou plutôt chapitre 8, et verset 11. Et nous verrons ce que Dieu dit à ce sujet. Chapitre 8, verset 11. Il commence à leur parler. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Commençons au verset 4, disons. Une grande foule s'est rassemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il prononça cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. L'humidité. Les baptistes presbytériens et luthériens sont sans eau. Quand l'un d'eux vient de se convertir, il regarde directement à Christ et il croit. Mais la première chose qui arrive, c'est que cette dénomination le lie à un endroit et l'humidité de l'esprit le quitte. Il devient un dénominationnel et il meurt. Pas seulement les baptistes, mais aussi les pentecôtistes. Vous ne croyez pas cela? Je sais que beaucoup d'entre vous ne le croient pas. Mais attendez un petit peu. Nous verrons si la Bible déclare cela ou pas. Bon, un manque d'humidité. Le dernier mot du sixième verset du chapitre 8. Le manque d'humidité. Une partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent, avec elles, elle est offerte. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Il continue et dit que certains, aussitôt qu'ils deviennent, ne vont pas porter de coup aujourd'hui. Je pense simplement que chez les hommes d'affaires chrétiens, chez le reste de ces organisations pentecôtistes, et chez ces gens qui construisent toutes ces choses qui valent des millions de dollars, Les richesses du monde ont étouffé en eux la gloire et l'Esprit de Dieu. Ils sont en train de mourir parce qu'il est étouffé. Le monde, l'intérêt du monde a étouffé la parole en eux. La femme désire être active, couper ses cheveux, avoir une coiffure gonflée, genre hydrocéphale, porter des shorts et ressembler au reste du monde. Le prédicateur, lui, est debout à la chair alors qu'eux pratiquent leur « Amen ». Il a peur de prêcher la véritable parole de Dieu par crainte qu'on lui coupe les vivres. S'ils ne peuvent rouler en cadillac, ils ne sont même plus considérés comme des êtres spirituels, c'est vrai. S'ils ne peuvent se vêtir d'habits élégants, et tout cela, on dit alors d'eux qu'ils sont rétrogrades. Ils ont perdu leur estime. Un vieillard qui est là au fond, le vieux frère Kid, m'a dit ce matin qu'ils ne le veulent plus, parce qu'il est vieux et qu'il reste tout à fait avec la parole. Qu'est-ce qui se passe? Il manque d'humidité, c'est vrai. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oh, quelle parabole! Comme j'aimerais pouvoir prêcher sur cela. Après avoir ainsi parlé, le verset 8 du chapitre 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, il dit à haute voix, il cria peut-être comme ceci, quand il dit, elle donna du fruit au centuple, que celui qui a des oreilles entende. En d'autres mots, que votre oreille est accordée avec Dieu, qu'il entende. Vous voyez, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Les mystères. Voyez-vous de quoi il parle ici? Maintenant, observez. Quels sont les mystères du royaume? Observez une minute. Les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous voyez, mais la parole de Dieu retombe sur eux pour les juger, car ils l'ont effectivement entendu. C'était là. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Quelle est la semence de la vie? La parole de Dieu. En conséquence, pour avoir la vie, vous ne pouvez pas passer par un credo, vous ne pouvez pas passer par une dénomination, vous devez revenir à la parole, la semence de la vie. Bien, sa parole est sa semence et son esprit est l'eau. Maintenant, retournons à Jean 3,14. Et là, vous l'avez de nouveau, voyez-vous. L'esprit est l'eau. Maintenant, regardez. Jean 3,14. Nous comprenons ce que cela veut dire, si vous voulez le lire. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voyez-vous, si Moïse éleva le serpent d'airain, ce fut pour la même cause que Christ fut élevé. Qu'est-ce? Moïse éleva le serpent d'airain afin que le peuple qui périsse puisse avoir l'eau pour la vie. Et regardez, Jésus, oh Dieu, Jésus est la parole de Dieu. Nous allons faire entrer cela cet après-midi, vous voyez, prouvez cela. Jésus est la parole de Dieu. Et il l'a fait éclater pour que la vie qui est à l'intérieur de la semence, cette vie qui est l'esprit, l'eau coulant sur l'esprit, sur la semence de Dieu, produise la vie de la semence. Et si cela produit quelque chose d'autre, il y a là alors une autre sorte de semence. Amen. Comprenez-vous? Si l'Esprit de Dieu vient pour arroser la semence, si la semence est arrosée, cela produira la vie de la semence. Est-ce clair? Il était donné pour produire la vie de la semence. Je crois que la Bible est la parole, l'entière vérité, et Jésus est la parole rendue manifeste. Lui et sa parole sont une et même chose. Qu'était-il? Regardez maintenant. Il était cette semence. Je dois garder quelque chose pour le donner ici ce soir. Vous voyez, mais c'est difficile. Il était cette semence qu'Ève aurait dû produire. Le comprenez-vous? Il était la semence qu'Ève devait produire. Mais elle l'hybrida en ne croyant pas la parole de Dieu. Ainsi, il était cette semence. Et la seule manière qu'il puisse y avoir la vie de la reproduction, c'est que la vie devait venir au travers de cette semence. Et cette semence devait mourir afin de propager la vie. Ne pouvez-vous pas le voir? C'est pourquoi l'eau fut donnée, pour arroser la semence. Le Saint-Esprit, qui était dans le jardin d'Éden, devait arroser la semence. L'homme n'était pas fait pour mourir, il fut créé pour vivre, mais l'hybridation apporta la mort. Elle hybrida. Maintenant, vous niez la semence du serpent. Alors, je vous demanderai, pourquoi y a-t-il ces services funèbres? Elle était hybride. Chacun de nous est hybride depuis le commencement. C'est la raison pour laquelle vous êtes constamment en train de mourir. Mais, oh Dieu, il y a un germe de vie qui vient de la vraie semence, celle que Dieu prouva être sa semence. Il le ressuscita, voyez-vous, afin que cette vie qui traverse la semence originelle, comme celle qui fut donnée à Ève, aille sur sa véritable église, et que cela produise de nouveau la vie, au travers de la naissance, au travers du sein de son épouse. Voyez-vous? Oh, c'est si riche et si glorieux. Je réserverai un petit moment à cette étude, et ainsi cela entrera mieux. Il est cette semence, il est cette semence qui fut produite par la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà la semence. Voyez-vous? Recevoir la parole. Voyez-vous? Jésus est la parole rendu manifeste. Lui et la parole sont une et même chose. C'est pourquoi cela fut rendu manifeste en lui si parfaitement. La raison pour laquelle Dieu se manifesta lui-même si parfaitement en Jésus, c'est qu'il était la semence parole. Le germe de la parole. Le germe qui est à l'intérieur de la semence, c'est la vie dans la semence. Vous saisissez? Vous voyez, il était le germe de la parole de Dieu. Le germe est l'esprit. Le germe est l'eau. Et Jésus devait être brisé là, afin que cette semence puisse répandre sa vie sur d'autres semences. Voyez-vous? Il a même dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles vont voir cela, elles vont recevoir cette parole et rester exactement avec elles. Et j'envoie l'esprit pour l'arroser, elle produira exactement cela. Cela produira des miracles, cela produira la puissance de Dieu, cela produira, et elle ne niera rien, car elle est une semence apparentée à la semence. Elle ne peut dire, me suivrez, venez vivre avec moi. Non, non, monsieur, non, non. Elle ne le fera pas. Non, vraiment pas. Elle ne se mélange pas. Vous ne pouvez mélanger la mort et la vie. Vous ne pouvez être mort et vivre en même temps. Ainsi, voyez-vous ce que je veux dire? C'est le germe qui vient de la semence. Il l'est. Il est la parole de Dieu parfaitement manifestée. C'est la raison pour laquelle, en lui, se trouvait la chose parfaitement correcte. Le fils du premier Adam était le fils promis au travers d'Adam, lequel, par Adam, continua la race humaine. Mais Ève l'hybrida au travers du serpent et cela produisit une génération d'enfants bâtards, nés pour la mort et sans vie. Et Jésus vint, étant cette semence, il l'a prouvé. Tout ce qu'Adam avait perdu, Jésus le possédait. Voyez cela? Il est le véritable Ève aurait finalement mis au monde cet enfant-semence, mais elle l'y brisa, fit entrer le serpent, écoutant la sagesse, la compréhension, la connaissance. Maintenant attendez jusqu'à ce que nous parlions de l'épouse. C'est la raison pour laquelle je crois ce que je crois. Cela doit revenir à cette parole. C'est la raison pour laquelle je dis que si quelqu'un désire discuter avec moi, me parler au sujet de cette parole, qu'il vienne. C'est vrai, j'ai proposé cela tout le temps. Si vous pensez que le fait de baptiser dans le nom de Jésus-Christ n'est pas la manière correcte, venez m'en parler. Si vous ne croyez pas qu'il y a une chose telle que la semence du serpent, venez me voir. Prenons simplement la parole. Si vous ne croyez pas que les femmes devraient avoir une longue chevelure et que c'est leur voile, venez m'en parler avec la parole à l'appui. Si vous ne croyez pas que la fin des temps est proche et que ces choses dont je parle sont, venez m'en parler. Vous voyez? Vous ne pouvez être une semence et être en désaccord avec la parole, car la parole est la semence. Et si vous êtes la parole, comment pouvez-vous être en désaccord avec elle? Vous seriez en désaccord avec vous-même. Vous annuleriez votre propre destin. Par exemple, on m'a dit, pourquoi sortez-vous avec des gens comme cela? Eh bien, si je ne le faisais pas, j'annulerais le destin même pour lequel j'ai été envoyé ici. Il doit y avoir une lumière. Maintenant, alors que nous continuons, nous allons prendre ces choses et vous montrer comment elles sont exactement et parfaitement en accord avec la parole. Maintenant, oui, monsieur. C'est pourquoi Dieu pouvait œuvrer au travers de lui. Et qu'a-t-il dit lorsqu'il était ici sur la terre? Je ne fais rien que le Père ne m'ait montré d'abord. Parfaitement. Et quoi qu'il ait fait, c'était toujours confirmé par les Écritures. Il dit, sondez les Écritures, car ce sont elles qui témoignent de moi. Et si je ne fais pas les choses qu'elles ont dit que je ferais, alors je ne suis pas cette semence originelle. Mais si je fais effectivement ces choses, alors pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est vrai. Si vous ne pouvez pas croire ce que je suis, alors croyez la parole que j'annonce. Croyez les œuvres que je fais, parce que ma semence ne peut produire que ce que je suis. Livrer ne peut être que de livrer. Vous pouvez l'hybrider avec n'importe quoi d'autre, mais elle restera toujours de livrer. C'est vrai, elle acceptera cela. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est double est un hypocrite. C'est un hybride. Un homme qui prétend être un homme de Dieu et qui nie la parole est un hypocrite. Un mulet qui prétend être un cheval alors qu'il n'en est pas un, il dit « Je suis un âne ». Il n'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes un hypocrite né bâtard. Exactement. C'est catégorique, mais c'est ainsi. Il ne cherchait pas à faire cela. L'homme a fait cela avec sa sagesse. C'est là où il est arrivé. C'est là où la sagesse de l'homme aboutit. À un être bâtard. Bien. C'est pourquoi Jésus était si parfaitement manifesté. Dieu était si parfaitement manifesté en Jésus, car il était la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait rien produire si ce n'est exactement Dieu. Et si Dieu est en vous, que pouvez-vous être de plus? Jésus n'a-t-il pas dit aux des prophètes à qui la parole de Dieu venait? À qui venait la parole de Dieu? Aux prophètes. Jésus ne les a-t-il pas appelés les dieux? Pourquoi? Dieu était manifesté en eux. Qu'est-ce que c'était? La parole parlée, manifestée. Voyez-vous? C'est cela. Il dit, comment pouvez-vous nier, dire, si vous aviez de la sagesse, vous comprendriez? Il dit, comment pouvez-vous dire que vous, Dieu lui-même les a appelés dieux? Elle dit, comment pouvez-vous dire que vous croyez en eux? Alors que vous me reniez quand je dis que je suis le Fils de Dieu. Pourquoi n'ont-ils pas vu cela? C'est la même chose aujourd'hui. Je suis cette semence qui devait venir. La semence de la femme. Je te donnerai une semence. Le serpent l'avait déjà souillée. Il dit, mais la semence que je te donne lui écrasera la terre. Il reprendra cette chose de nouveau. Amen. Je souhaiterais que chacun puisse voir cela. Je suis venu pour conquérir et pour corriger ce qu'il a fait. Et la seule façon que je puisse le faire est d'utiliser à nouveau une femme qui croit entièrement en la semence, là où une autre a douté. Une femme croyait la semence alors qu'une autre ne la croyait pas. Je suis ce vainqueur, je suis celui qui vient pour donner la vie au travers de ma mort, afin de payer la rançon de son péché. Et ma vie vous sera donnée, elle coulera sur vous, et vous serez des fils et des filles de Dieu. voyez-vous, tant que la semence s'y trouve. Si vous l'hybridez, vous n'avez rien, si ce n'est un enfant bâtard dénominationnel. C'est tout. Tout ce qui nie la parole. Excusez-moi, sœur, je vais dire que vous, je dois le dire de la façon exacte dont c'est dit ici. Vous voyez, et c'est ainsi. Tous les fils de Dieu doivent être identiques. Oui, monsieur. Être né de la parole et de l'esprit nous ramène de nouveau à la parole parlée, comme dans Jean 3. Voyez-vous, être né d'eau et d'esprit, et que cela fait-il? Cela vous ramène de nouveau à la place où vous auriez dû être au commencement. Voyez-vous? C'est la raison de la mort de Christ. Nous ramener de nouveau à quoi? À être des fils de Dieu. Si Ève avait donné la vie à cet enfant, elle aurait fait finalement cela. Dieu ne lui a-t-il pas dit « Multipliez et remplissez la terre » Mais elle devait marcher de ce côté-là et jouer le rôle d'une prostituée. Vous dites, c'est catégorique, frère Branham. Mais attendez un petit peu. Nous y viendrons plus tard. Voyez-vous, vous dites, cela ne se peut pas. Eh bien, nous verrons si la parole le dit ou pas. Voyez-vous? Alors, la question sera tranchée. Ceci n'est pas caché. Si cela allait, c'est caché à ceux qui sont perdus. Vous voyez, c'est ainsi. Maintenant, cela vous ramène directement à la parole parlée. Alors, nous sommes la parole de Dieu rendue manifeste. Voyez-vous, Jésus a dit la même chose. Celui qui croit en moi, qui sait qui je suis, pourquoi je viens, et le dessein que j'ai de ramener un homme à croire la parole de Dieu en ne prenant rien d'autre avec elle, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Vous y êtes. Pourquoi ne voyons-nous pas cela aujourd'hui? Parce que c'est hybride. Ce sont des enfants bâtards, mélangés. C'est un mulet, il ne sait pas à quoi se rattacher. Il ignore tout de son père, de sa mère. Il n'a pas de pédigré. Il n'a rien pour lui. C'est une créature illégitime. Il en est ainsi avec chaque personne qui prétend croire Dieu sans croire sa parole et qui prend un credo dénominationnel pour le croiser avec la parole. Vous voyez, vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes mort. Vous ne pouvez être mort et vivre en même temps. Ainsi, même la parole de Dieu ne croit pas en vous. Pas en vous. Vous jouez simplement le rôle d'un hypocrite. Que cela soit un évêque, un prêtre, un cardinal ou qui que ce soit, c'est vrai. Cela doit être la parole où vous êtes mort. Simplement un enfant illégitime. Et la parole de Dieu ne croîtra point en vous. Vous pouvez croître dans le même champ, nous allons y arriver bientôt. Et vous n'êtes certainement pas dans la bergerie. Cela ne croîtra pas. Bon, très bien. Considérons alors la parole parlée. Nous sommes la parole de Dieu rendue manifeste. C'est ainsi que Dieu veut son Église, afin de se manifester lui-même. Comment peut-il se manifester à moins que sa propre semence soit dans cette personne? Comment pouvez-vous utiliser votre propre pensée et Dieu se manifester au travers de vous? Comment pouvez-vous prendre votre propre croyance et dire, « Eh bien, mon pasteur enseigne, mon credo dit, le jour des miracles. » Comment allez-vous faire cela, être ensuite un fils de Dieu manifesté? Comment allez-vous le faire? La mort de Jésus ne représente rien pour vous. Oh, je l'accepte comme mon sauveur. Vous ne le faites pas. Vous dites que vous le faites, mais vous ne le faites pas. Vos œuvres prouvent ce que vous êtes. Jésus a dit la même chose. Si vous pensez que je suis né d'une façon légitime, il dit, nous sommes les fils d'Abraham, et nous n'avons besoin de personne pour nous enseigner. Il dit, si vous étiez les fils d'Abraham, vous m'auriez connu, voyez-vous? Il dit, lequel d'entre vous me condamne de péché et d'incrédulité? Montrez-moi une seule chose que Dieu ait promise à mon sujet et qui ne se soit pas accomplie. Montrez-moi une seule chose que le Père ait promise et que je n'ai pas accomplie. Le péché, c'est l'incrédulité. Alors, voyons comment vous produisez cela. Cela est déconcertant, voyez-vous? Certainement. Il dit, qui m'accuse? Qui me condamne de péché et d'incrédulité? Voyez-vous? Si je ne crois pas, alors pourquoi le Père accomplit-il sa volonté au travers de moi comme il le fait? Chaque parole qu'il a promise. Maintenant, faites-moi voir où vous en êtes dans tout cela. Alors, qui sont nés d'une façon légitime? Eux! Des enfants illégitimes professant être des enfants de Dieu. Jésus a déclaré, vous avez pour père le diable et ses œuvres vous faites. Quel genre d'œuvres le diable a-t-il faites? celle d'essayer d'hybrider la parole de Dieu au travers d'Ève. C'est exactement ce que font ces grandes dénominations aujourd'hui. Elles font les œuvres du diable, leur père. Elles essayent de prendre un credo et de le croiser avec la parole de Dieu. C'est ce que Satan a fait au commencement, leur père, le diable. Que Dieu vous bénisse, frère. Sortez de cela. Jésus l'a dit. Si vous avez un petit quelque chose de Dieu en vous, vous devriez regarder voir cela. Hybride. Oh, par exemple. Les œuvres que Jésus a faites, c'est un homme à la semence de Dieu en lui, avec l'Esprit de Dieu, arrosant cette semence, les mêmes œuvres que Jésus fit, elles étaient manifestées en Jésus. Lui étant la semence originelle de Dieu, sa mort vous ramène à la semence originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en Dieu, qui était en lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. Ne croyez-vous pas cela? Bon, disons dans Jean 14, 12. Vous dites, je suis un croyant, frère Branham. Je suis sûr que je suis un croyant. Très bien, je vais voir si Jésus vous en appellerait un. Si la parole vous nomme ainsi. En vérité, absolument, absolument, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. Qu'est-ce? La même semence. Comment pouvez-vous planter du blé ici et du blé là et dire, je vais avoir des concombres ici et du blé là? Vous ne pouvez le faire. La seule façon pour que vous ayez des concombres, c'est de planter des concombres. Si vous l'hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Est-ce vrai? Il sera un hypocrite, mes amis. Vous devez le dire. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un concombre. Et ce n'est pas non plus la chose avec laquelle vous l'avez croisé. C'est un produit de croisement. Et c'est un mauvais produit. Il est mort en lui-même. Et ne peut plus se reproduire. Il est mort où il est. Il n'ira pas plus loin. Il est fini, c'est tout. Mais si vous voulez un concombre, commencez avec un concombre. Et vous voulez une église, commencez avec la parole de Dieu. Si vous voulez une vie selon Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude, dans toute sa mesure. Et s'il y a la plénitude de Dieu en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Alors maintenant, où apparaît votre pluie de l'arrière-saison? Vous voyez où cela va ensuite, n'est-ce pas? Cela va vers ces concombres sauvages qu'Élisée prit, pensant que c'était les concombres. L'école de prophètes dont il faisait partie là-bas, en haut, ses dénominations, il rassembla quelques concombres sauvages et pensa que c'était des pois. Bon. Alors les œuvres qui seront manifestées en lui sont les mêmes, car c'est la même semence, la parole de Dieu. Le Fils de Dieu était son exemple de semence. Est-ce que sa vie était quand l'Esprit fut répandu sur lui après son baptême, la vie même qu'il produisit produira la même sorte de vie. Elle fera les mêmes choses qu'il fit. Si c'est la même semence. La semence fils de Dieu produira la semence fils de Dieu. Maintenant, honte à vous, femme aux cheveux courts. Honte à vous, prédicateur qui niez cette vérité. Vous dites, c'est en ordre. Les cheveux n'ont rien à faire avec cela. Mais Dieu a dit que cela avait de l'importance. Vous voyez où c'en est? Voyez-vous, c'est pourquoi je crois la parole. C'est la semence. Et si la pluie tombe sur la semence, elle produira selon son espèce. Maintenant, qu'en est-il de ces réveils? Que voulez-vous faire? 1 million de plus en 44. Baptiste, presbytérien, et lesquels encore? Pentecôtiste. Mais où est cette manifestation des œuvres de Jésus-Christ? Je ne fais rien comme mon Père ne m'ait montré premièrement. D'où vient cette sorte de semence? Le Saint-Esprit arrosera et produira cette semence. C'est l'eau pour la semence. Si la semence a été plantée, c'est exactement le rôle que joue l'eau à son égard. Et si l'eau tombe sur vous, vous dites, que Dieu soit béni, laissez-moi vous dire quelque chose, prédicateur. Je suis un tel et je ne crois pas dans ces bêtises. Vous êtes alors simplement d'un homme national. Vous êtes un vieil hypocrite dès le commencement. C'est la sorte de semence qui peut planter. Ne me comprenez pas mal. Je vous aime, mes chers amis. J'essaye seulement de vous faire comprendre cela, vous voyez. J'y reviendrai en fin de journée. Je vous laisserai bientôt aller, mais je veux, une fois que vous soyez au clair sur ce qui est juste, la raison pour laquelle je crois ce que je crois. Je crois que le diable vous a trompé. Franchement, je sais qu'il l'a fait. Selon la parole de Dieu, il ne peut faillir, il vous a trompé. Oui, monsieur, c'est pourquoi je prêche ces choses de cette façon, car la parole de Dieu l'a déclaré ainsi. Oh, vous dites, mais frère Branham, c'était un jour différent de celui-ci. C'est pourtant la même parole. Ils ont sorti d'un grenier là-bas du blé qui était du temps de Joseph, et ils l'ont planté ici il y a 2 ans. Avez-vous vu cela dans le magazine? Et il a produit une récolte de blé. C'était toujours du blé. C'est pourquoi il s'est reproduit. La seule chose dont il avait besoin était d'un peu d'eau. La parole de Dieu est la même que lorsqu'il la prononça il y a des milliers d'années. La seule chose dont il a besoin, c'est de l'eau. Pourquoi n'obtenons-nous pas une récolte? Parce que nous avons la mauvaise sorte de semence. Combien parmi vous tous aimeraient changer leur façon de voir? 2 fois plus d'enfants pour l'enfer que lorsque vous avez commencé. Combien parmi vous, méthodistes, aimeraient devenir baptistes? Et vous, baptistes, qui aimeriez devenir pentecôtistes? Apportez simplement votre adhésion ici. Oh, pour l'amour de Dieu, quelle bêtise, quelle sottise satanique! Il n'y a point de vide du tout dans cela. C'est hybride, hypocrite, mort 2 fois, mort et arraché avec les racines. Jésus n'a-t-il pas dit, chaque plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée? Une dénomination ou quoi que ce soit d'autre sera arrachée. La parole de Dieu seule demeurera, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Chaque parole des hommes est un mensonge, mais la mienne est la vérité. Alors, où allons-nous aller? Vous feriez mieux de reprendre vos sens. Mais vous ne pouvez l'entendre ainsi à moins que vous soyez prédestiné à l'entendre. Nous arrivons à cela. Ce n'est pas étonnant que cela glisse comme l'eau sur le dos d'un canard. Il est fait pour se défaire de l'eau, pas pour l'absorber. L'arche était faite avec du bois de gopher et du bois de sittim. Ils ne sont rien d'autre que des bois creux. Il n'a rien en eux, si ce n'est du vide. Tout en est retiré. Ils croient ainsi. C'est le bois le plus léger qu'il y ait. Il est plus léger que le balsame. Pourquoi l'ont-ils utilisé? Pour qu'ils puissent l'imprégner de poids. Si cela avait été du chêne, vous dites, le chêne n'aurait-il pas été aussi bien? Non, monsieur, il n'absorbe rien, il le repousse. Il est imperméable, tandis que celui-ci absorbe. Une vraie semence de Dieu absorbe l'esprit. Tout dénominationalisme est ôté, toute incrédulité est ôtée. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans ce germe de vie qui repose là, cela produit un autre fils, exactement. Un autre fils de Dieu est né. Amen. Un autre Dieu amateur, un autre fils de Dieu. Je suis un Branham parce que je suis né de Charlie et d'Ella Branham. Cela fait de moi un Branham parce que je suis leur semence. L'union de leurs 2 spermes fit une semence et cela me forma. Quand Dieu et sa parole deviennent un, alléluia, quand l'Esprit de Dieu arrose la semence de Dieu, la parole de Dieu, il produit Dieu. Et ce n'est pas l'individu, c'est Dieu. Pourquoi? Vous êtes mort. Ce n'est plus vous. Vous vous considérez comme mort, rendu creux, attendant le germe de la semence. Alors, qu'est-ce que cela? Ce n'est plus vous, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu dans l'homme. C'est le germe de la semence, comme au commencement, la parole parlée, la parole de Dieu rendue manifeste dans l'homme. Alors, ce n'est pas l'homme, car l'homme est mort. Il ne peut être un hybride et un fils en même temps. Il est soit un fils de la mort ou un fils de la vie. Ainsi, c'est un fils de la vie, abandonnez-le au diable et laissez-le le tuer. Peut-être abandonnez-vous à Dieu une minute et laissez-le tuer le diable qui est en vous et le jeter dehors. Laissez-le vous creuser et ensuite laissez Dieu planter sa propre vie en vous. Alors ce n'est plus vous, c'est la vie de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui, une fois arrosée par le Saint-Esprit, produira la même chose. Le voyez-vous? J'aimerais vraiment prêcher sur cela pendant quelques minutes. Mais avec les 30 ou 40 pages de références bibliques que j'ai ici, et je n'en ai utilisé que 3 jusqu'à maintenant. Bon, manifester. Les œuvres manifestées de la même façon par nous car c'est la même parole. Maintenant, si vous voulez faire les œuvres de Christ, faites la même chose qu'il a fait. Celui qui croira en moi fera mes œuvres. Qu'est-ce? Celui qui croit, quoi? Qu'il est le germe de la semence originelle qui est venue. Où est la semence? Tenez, laissez-moi prendre ces mouchoirs. Ici se trouve l'homme qui était supposé exister. Voici l'homme qui était supposé exister. Que se passe-t-il? Ève l'hybrida, le croisa. Alors, quelles en furent les conséquences? Cela changea en mort et continua à mourir et à mourir. Maintenant, celui-ci vient. Ici, la parole demeure la même. Voici la parole qui est là, toujours la même. Maintenant, que se passe-t-il? Voici la parole que Dieu prononça, disant de multiplier, de remplir la terre, ne put trouver un emploi ou se réaliser. Finalement, cette parole s'accrocha dans le sein d'une vierge. Nous en parlerons cet après-midi. Et que se passe-t-il? De lui va le germe de vie. La chose qui produit l'eau, qui donne au grain la chance de se reproduire. L'esprit sortit de lui et monta. Nous y voilà, nous avançons. Que se passe-t-il? Nous croyons cela. Maintenant, que dit Jésus? Celui qui croit en moi, vous voyez? Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, qui croit que le Saint-Esprit est venu sur moi sous la forme d'une colombe et a fait ceci, non par une hybridation, mais par une naissance virginale. Pas selon le cours de la vie, comme un homme et une femme qui ont un enfant, non pas cela. Pas un hybride, mais un enfant né d'une vierge. Maintenant, au travers de ceci, je donne cette vie, afin que, si vous acceptez par la foi ce que le Père, ce que tous les prophètes et ce que toute la parole de Dieu dit, je répandrai cette vie sur vous, et vous ne pourrez rien faire d'autre que produire la même chose que moi. Vous y êtes. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et qu'a-t-il fait? Tout ce que le Père lui montrait. Saint Jean 5, 19. Je ne fais rien avant que le Père me le montre. Qu'en est-il? Il se fit lui-même homme. Dieu fut fait chair et habita parmi nous. La parole fut faite chair et habita parmi nous. La parole parlée de Dieu au travers d'une vierge produisit un corps et dans ce corps vint l'eau, l'esprit, lavé par l'eau de la parole, et l'habita en lui. Et de là vint la vie de Dieu se manifestant au travers de Christ. Dieu était en Christ, le oint. Christ signifie le oint. Un homme qui était oint et Dieu habitant en lui. Qu'était-ce? Le germe avec la chair. Le oint, la chair étant oint par l'Esprit de Dieu, produisit la parole de Dieu rendue manifeste. Pleine de grâce, nous l'avons contemplé, le Fils unique venu du Père. Voyez-vous, c'était là ce qu'il était. Vous voyez, il était la parole de Dieu rendue manifeste. Et il mourut pour payer la dette de votre hybridation. Maintenant. Oh là là. Le voilà. Qu'est-ce? Que vous puissiez mourir à vous-même jusqu'à ce que vous n'existiez plus et qu'ainsi vous puissiez être rempli de sa parole, croyant sa parole. Alors le Saint-Esprit qui était en lui descend pour arroser cette parole, pour la faire croître. Vous voyez? Qu'est-ce? Dieu manifestant, continuant l'œuvre de son premier fils, son fils unique qu'il a engendré, vous voyez, et qui mourut pour notre vie hybridée, afin qu'étant réconciliés, nous devenions à nouveau des fils et des filles de Dieu, afin aussi qu'au travers de l'Église, il puisse y avoir cette même vie, par la parole, continuant à se manifester comme était en Christ. Christ était la parole de Dieu rendue manifeste. Il mourut et donna sa vie, afin qu'il pût envoyer l'Esprit. Il fit monter son corps, puis il répandit son Esprit pour arroser, pour payer le rachat de ceux qui croiraient. C'est vrai, encore faut-il le croire. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais. Alors le Saint-Esprit vient sur la même parole de Dieu. La parole de Dieu doit être en vous. La parole est une semence, et aussi longtemps qu'elle se trouve ici, elle ne porte pas le fruit. Mais lorsqu'elle vient là-dedans, lorsqu'elle vient dans le cœur, Alors, elle commence à manifester par le Saint-Esprit les œuvres de Dieu. Alors, les visions viennent, la puissance vient, l'humilité vient. Tout votre « moi, je sais tout » a disparu. Vous n'êtes plus rien, alors Christ devient vivant. Vous mourrez, mais lui vit en vous. C'est cela. Parce qu'il mourut, je vis. Quand je meurs, il vit de nouveau en moi. Et quand je consens à perdre ma propre vie, il me donne la sienne. Je meurs à moi-même afin que je puisse avoir sa vie. Et comment l'ai-je fait? En prenant sa parole, sa semence, et en mettant sa semence ici dedans par la foi et en la croyant. Alors elle produit exactement ce que la Bible a dit. Maintenant, mes frères, examinez un peu ce qui se passe au travers du pays. Nous y trouvons beaucoup d'imitations. Continuons pendant encore quelques instants. Bien, les mêmes œuvres qui étaient manifestées en Christ seront manifestées dans son Église. Il l'a dit, Saint Jean 14, 12. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Est-ce vrai? Bon, il était prédestiné, fit chair, sa semence parole. Je ferais mieux de m'arrêter là, maintenant. Peut-être que vous ne le feriez pas, mais il y a peut-être quelqu'un là-bas qui écoute les bondes et qui ne comprend pas. Prédestiné. Tous les fils et toutes les filles de Dieu sont prédestinés. Nous verrons les Écritures dans un moment. Je vous cite simplement Éphésiens, chapitre 1er, verset 5. Bien, nous sommes prédestinés. Pourquoi? Christ est la semence originelle, et cette semence originelle était prédestinée par la préconnaissance de Dieu à prendre notre place, celui-ci sachant que la chute viendrait. Vous saisissez cela? Tous les fils et toutes les filles de Dieu sont prédestinés. Et vous dites alors, condamnerait-il quelque chose? Non, monsieur, vous êtes un agent moral libre, mais Dieu, connaissant toutes choses d'avance, savait ce qui allait arriver. Il savait qu'ils étaient. Dieu n'a pas fait en sorte qu'elle fasse cela. Il n'a pas fait faire cela. Mais il savait qu'elle le ferait. Ce n'est pas étonnant que je croie dans le 12e chapitre de Saint Luc. Je crois que c'est cela. Ne le marquez pas. Je l'ai inscrit là, un peu plus loin. Il dit, ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Esaïe a bien parlé de vous. Esaïe vous a vu d'avance. Elles sont là, assis, avec des yeux, des oreilles et tout le reste, mais malgré cela, ils ne peuvent voir. Pourquoi? Ils sont réfractaires à la parole de Dieu. Jésus, s'adressant à eux, leur dit, « Oh, vous, hypocrites, vous êtes les enfants du diable et vous faites ses œuvres. C'est pourquoi vous me condamnez et rejetez mon ministère. Montrez-moi où votre ministère produit la pleine parole de Dieu, comme le sien le faisait. Voyez-vous? Il était prédestiné. Maintenant, vous dites, comment cette prédestination vient-elle? Maintenant, je désire que tous ceux qui ne comprennent pas ceci lèvent la main que j'aurai fini. Vous voyez? Dieu, au commencement, donna l'ordre à Adam et Ève de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi et pourquoi le sexe fut donné. Mais que provoqua l'hybridation, elle apporta la mort. Nous verrons cela cet après-midi, voyez-vous. Maintenant, remarquez, Dieu vit d'avance tout cela et prédestina un monde de fils et de filles. Il les prédestina à être là. Et à cause de l'hybridation, le fait de ne pas avoir cru la parole de Dieu, produisit une hybridation. Mais Dieu le rectifia de nouveau, afin que nous ne soyez plus obligés d'être un hybride. Vous pouvez revenir à la parole originelle, être un fils de Dieu, exactement comme vous étiez supposé l'être au commencement. Voyez-vous? Christ n'y pouvait rien d'être ce qu'il était. Il était le fils de Dieu. C'est tout. Voyez-vous maintenant ce que je veux dire? Si vous êtes prédestiné, vous recevez la parole de Dieu et vous croyez en elle. Pourquoi cela? Voilà quelque chose de nouveau. Pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler de qualité héritée dans une famille? Un fils reflètera quelque peu son père ou sa mère, ou le grand-père ou la grand-mère. C'est une qualité héritée dans une famille. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour la prédestination. Vous étiez censé au commencement être ici dans la bonne voie, mais étant donné que vous êtes venu de cette façon-là, vous êtes sujet à la chute. C'est pourquoi, étant prédestiné, vous entendez la parole, elle vous ramène directement là où vous étiez prédestiné. Amen. Je n'ai jamais vu cela auparavant. Elle vous ramène, qu'est-ce qui vous fait croire la parole de Dieu et repousser ces autres choses? C'est parce que vous étiez, il y a quelque chose en vous, tout là-bas en arrière, vous étiez censé, vous êtes fait pour vivre ici et pour toujours. Bon, une écriture pour cela, prédicateur. Voilà, elle vient. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quelle est l'utilité de prêcher, frère Branham? Il y a une récolte là-bas. La seule chose que je fais, c'est de prêcher à la Seine. Je jette simplement mon filet et je surveille où il va. S'il le rejette, si la graisse de la sainteté du monde, si les dénominations le rejettent, je n'y peux rien. Mais s'il y a un là-bas qui peut l'absorber, il se transformera en un fils ou une fille de Dieu. Aussi sûrement que le monde existe. Amen. Parce que c'est prédestiné. C'est la raison pour laquelle Dieu pouvait œuvrer lui-même au travers de Jésus. Il était le fils prédestiné. Il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il y a plus de 100 milliards de trillions de millions d'années. Nous en parlions au sujet de Genèse 1 il y a un moment. Qu'il fut alors prédestiné à prendre sa place. Amen. C'est la raison pour laquelle il a fait la volonté du Père. Il était la parole rendue manifeste, et chacun des autres fils auront la même manifestation, et ceci pour ceux qui ont été prédestinés. Ce petit groupe qu'il y a dans chaque génération apparaîtra à la résurrection, et ceci tout au long des âges, depuis le commencement du monde. Et la raison pour laquelle il s'y cramponne, même Paul en parla dans l'Apocalypse, ou dans Hébreux chapitre 11, il dit « Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dans le besoin, affligés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. » Amen. N'ayant rien à manger, errant çà et là, pourchassés, persécutés, sciés, comme Esaïe le fut, et beaucoup d'autres aussi. C'est ainsi que Paul parlait de ces hommes. De qui parlait-il lorsqu'il disait qu'ils avaient été sciés? D'Esaïe le prophète, prédestiné avant la fondation du monde. Il aurait dû venir au travers du sein d'Ève. Mais alors, ils vont au travers du sein d'une femme. Son esprit devait venir ici pour être un témoin. Jésus va aussi comme un témoin de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, montrant que l'homme mourra, mais qu'il vivra de nouveau au travers de lui, car il est la semence qui doit pousser. Amen. J'espère que vous voyez cela. Bon, étant prédestiné, il fit chair en vous, son Église, la semence parole. La parole de Dieu, vous dites, bien sûr, frère Branham, chaque parole, je la crois. Alors, ne reculez pas en reprenant vos traditions, voyez-vous. Restez exactement avec cette parole. Restez avec elle. Observez ce qui arrive. Dites, ô Seigneur, je la crois. Envoie le Saint-Esprit. Ensuite, observez. Alors, si ensuite, il leur rend témoignage, alors vous savez que vous l'avez. Non pas par une sensation quelconque, le diable fait cela. Non pas par quelque miracle, le diable fait aussi cela. Mais par le fait que vous croyez constamment dans la parole de Dieu et par la façon que vous vivez. Ne nions jamais rien. Très bien, cela fait que la parole devient chair. Vous voyez, chair est la même mot, l'esprit. Maintenant, attendez une minute. Je ne veux pas laisser ceci de côté. Vous voyez, Jésus était la semence d'Abraham. Au point de vue de la chair. N'est-ce pas vrai? Une semence prédestinée d'Abraham. Et lorsque l'Esprit tomba sur lui, quelle sorte de vie a-t-il eu? Il eut une vie de foi. Quelle sorte de vie? Vous voulez dire qu'il allait séjourner comme Abraham? C'est là où les gens s'embrouillent aujourd'hui. Ils pensent qu'un homme de Dieu doit faire ceci et suivre cela. Oh, miséricorde! Non! Comment Christ était-il la semence d'Abraham? Pas tellement dans son corps, car Isaac, la semence d'Isaac, tomba finalement et mourut. Elle recula et s'hybrida aussi. Nous arriverons tout de suite à cela, voyez-vous. Mais la semence foi d'Abraham, lui qui croyait la parole de Dieu sans se préoccuper des circonstances. Vous y êtes. Vous savez, j'ai envie de pousser des cris. Regardez, regardez, la semence foi d'Abraham. Qu'est-ce que c'était? Pas le corps d'Abraham, mais la foi d'Abraham. La foi d'Abraham en quoi? La parole de Dieu. Peu importe ce qui pouvait arriver, il considérait tout ce qui était contraire à la parole comme si cela n'existait pas. Oh, cela ne déchirerait-il pas tes dénominations pièces? Cela le ferait certainement. Si seulement la vérité sur mariage et divorce était apportée dans la lumière de la parole, cela démolirait chaque église de cette ville ou dans n'importe quelle autre cité qui essaierait de revenir à cela. Ils sont faux des deux côtés. Je peux prouver cela par la Bible. Les deux sont faux. Bon, si oui ou non un homme doit faire ceci ou cela, ou une femme faire ceci ou cela, je ne vais pas le dire, car j'ai maintenant causé assez de confusion parmi eux. Voyez-vous, Jésus a dit, laissez-les, si un aveugle conduit un aveugle. Pourquoi cela? Ils feraient simplement des histoires à ce sujet. Ils ne le croiraient pas. S'ils étaient nés pour la vie éternelle, ils croiraient la parole. C'est vrai. S'ils ne le font pas, Dieu se manifestera lui-même à eux. S'ils ne le croient pas, eh bien, ils ne le croiront pas, c'est tout. Non à ceci, premièrement. Il se peut que nous revenions là-dessus plus tard, une fois, mais préoccupons-nous de ceci, premièrement, et voyons pourquoi nous devons croire ces choses, et comment nous devons les croire. Vous devez les croire. Si vous ne le faites pas, vous êtes perdu, vous l'êtes. Croire quoi, Père Branham? Vous? Non, monsieur, pas moi. Vous me croyez, je prononce la parole, je n'y mets rien, je vous dis simplement ce que la parole dit, concernant le fait de croire cette parole. Et ce que j'ai fait, c'est d'essayer de croire cette parole de la manière qu'elle est écrite. Je n'ajoute rien, je n'ôte rien, je la lis simplement comme elle est, et je la crois comme cela. Et par la grâce et l'aide du Dieu Tout-Puissant, il l'a confirmée. Et je demande à quiconque de réfuter. Maintenant, vous qui écoutez les bandes, venez le faire. Dites-moi ou une fois je vous ai dit quelque chose de faux ou quelque chose qui ne soit pas arrivé. Faites-moi connaître une chose que Dieu n'ait jamais confirmée, exécuté exactement comme cela avait été annoncé. Bon, il était prédestiné, et la semence parole, à qui cette même mot était destinée? L'Église d'aujourd'hui est-elle une épouse prédestinée? Dieu n'a-t-il pas dit qu'il aurait une épouse sans tache ni ride? Alors, c'est prédestiné, n'est-ce pas? Voyez-vous? Bien, Christ était prédestiné, il était la semence royale d'Abraham. Et qu'a-t-il fait? Quand l'Esprit vint sur Christ, il rendit témoignage à la parole de Dieu. De même, lorsque l'eau, l'Esprit tombe sur la semence parole, la semence royale de la foi d'Abraham, dans la parole de Dieu, celle-ci produira la même sorte de récolte. Vous dites, je ne crois pas cela. Très bien, voyons ce qu'il en est. Maintenant, consultons la parole et voyons. Sommes-nous la semence d'Abraham? Genèse 17. Retournez à la Genèse et cherchez le chapitre 17. Je laisse ici beaucoup de côté, mais je dois en toucher quelques-unes, car un critique pourrait venir et dire « Je ne crois pas cela ». Ainsi, nous allons simplement nous référer à quelques passages, afin que le Saint-Esprit le fasse taire. Vous voyez. Bon, 17, 7. Commençons au verset 6. « Et je te ferai fructifier extrêmement, la semence d'Abraham, et je te ferai devenir des nations, les gentils et les autres, et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance, maintenant observez, entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. Maintenant, quelle est la semence d'Abraham? Ce n'est pas sa chair. Voilà dit qu'un juif qui est extérieurement n'est pas un juif, mais c'est celui qui est intérieurement, voyez-vous. Quelle est la semence d'Abraham? Ceux qui croient l'entière parole de Dieu, sans se préoccuper de ce qu'une dénomination, ce que papa ou maman ou n'importe qui d'autre dit, il croit l'entière parole de Dieu. Dieu dit, j'établirai maintenant mon alliance prédestinée, cette alliance avec toi et avec ta semence qui dans chaque génération après toi la croira. Vous y êtes, semence d'Abraham. Maintenant, observez. Dieu dit, j'établirai mon alliance avec la semence. Eh bien, vous dites, frère Branham, cela donne à chacun. Maintenant, attendez une minute. Allons à Éphésiens maintenant. Dans le livre des Éphésiens, nous allons commencer au premier chapitre des Éphésiens. Et ensuite, nous lirons ici un passage et nous verrons ce que Dieu nous dit à ce sujet. Maintenant, écoutez. Paul, Observez de quelle façon elle exprime cela. Maintenant, que chacun fasse attention. Nous en avons encore pour quelques minutes, environ 45 minutes. Et ensuite, nous vous renverrons pour dîner. Maintenant, regardez. Paul, apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre? Un homme qui est envoyé. Paul, un envoyé de Jésus-Christ. Est-ce vrai? Par la volonté du Sanhédrin. J'ai mal lu cela, n'est-ce pas? Par la volonté des luthériens. Bien, de toute façon. Paul, un envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Au saint, qui est-ce? À tout le monde? Non, monsieur. Tout le monde ne peut pas recevoir cela, c'est vrai. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ceux qui sont déjà en lui. C'est à ceux-là que je souhaiterais parler ce matin dans cette congrégation. À ceux qui sont déjà en Jésus-Christ. Vous voyez, vous ne pouvez pas en parler à ces bébés qui sont là-bas. Ils ne veulent pas manger de la viande, ils doivent boire du lait. Ils sont rabougris, vous voyez. Ainsi, souvenez-vous, ils ne peuvent pas supporter de la viande solide. Maintenant, aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bon. Béni soit Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, il parle à l'Église maintenant, mais pas à ceux du dehors, seulement à l'Église, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comme ce matin. Ceux qui aiment cela le mangent jusqu'à la dernière miette. Dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Est-ce que nous l'avons choisi? Non, non. Oh, frère Branham, je vous demande pardon, je l'ai fait. Non, vous, selon la parole, vous ne l'avez pas fait. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Eh oui, et quand l'a-t-il choisi? Quand Jésus a-t-il dit qu'il a choisi son Église? Avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus, au dernier réveil, que le docteur Antel a eu? Non, non. Il se peut que vous lisiez cela dans le credo, dans un manuel, mais pas dans celui-ci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quand avons-nous été élus? Au dernier réveil? Le soir où nous avons été sauvés? Eh bien, c'est quand il n'y avait pas de monde, pas d'étoiles. Pas d'atomes, pas de molécules. C'est là que nous avons été choisis. Amen. Oh, ne me laissez pas commencer à prêcher sur cela. J'essaie simplement d'expliquer quelque chose ici. Très bien. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons, quoi? Des membres. Non. Oh, une fois sauvés, nous agissons comme nous voulons. Non. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, en qualité de membre. Oh non. En amour, n'est-ce pas? C'est vrai, très bien. En amour, excusez-moi, je crois que je fais un peu le pitre. Maintenant, je ne devrais pas faire cela. Bon. En amour. Nous ayons quoi? P-R-E-D-E-S-T-I-N-E? Oh, prédestinés à être ses enfants d'adoption. La semence dès le commencement, vous voyez. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Qui a fait cela? Dieu. Qu'en a-t-il fait? Avant la fondation du monde. Alors, si nous venons par une naissance illégitime au travers de la corruption d'Ève, nous sommes tous ses enfants et sujets à la mort. Ainsi, la souveraineté de Dieu doit préparer un moyen pour acheter ses enfants. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Oh là là. Maintenant, où se trouve la grande chose que vous avez faite? Vous n'avez jamais rien fait. Vous devriez être honteux. C'est Dieu qui a fait toutes choses. La roue tourne tout à fait bien. L'autre jour, on est venu me rapporter les paroles calomnieuses d'une certaine personne à mon sujet. J'ajoutais simplement, oh, oubliez cela. Il dit, comment pouvez-vous les prendre comme cela? Cela implique votre famille. Je lui dis, oh là, c'était prédestiné avant la fondation du monde de me donner cette épreuve. Je lui dis, oh là là, c'est sûr, ainsi c'est en ordre. Il dit, comment faites-vous cela? Je lui dis, si je prenais les choses de cette façon, je serais tout le temps en train de tomber. C'est ainsi avec les gens aujourd'hui. Si j'accepte la vérité de la parole de Dieu, frère Branham, ils me mettent dehors. Eh bien, que recherchez-vous ici-bas? Regardez à la fin de la route, vous voyez? Un homme qui regarde comme ceci ne sait pas où il va. Il regarde dans cette direction, mais si vous regardez là-bas, peu importe ce qui se passe maintenant, vous savez où vous allez, voyez-vous? C'est cela. Regardez où vous allez. Restez alignés avec la parole. Bon, nous ayons prédestiné à l'adoption. Maintenant, croyez-vous que nous étions prédestinés? Et Jésus était-il prédestiné? Il était l'agneau de Dieu, déjà immolé, avant que la lumière fût, avant qu'il existât un seul météore, avant que fût créée la molécule, l'atome ou n'importe quoi. Il était le Fils de Dieu immolé. Oh, la grandeur de Dieu! Alors, ces petites cervelles de cacahuètes sorties de quelques petites couveuses dénominationnelles de par ici étaient de débattre cela et de dire que ce n'est pas juste. C'est une honte! Qui êtes-vous? Certains même disent qu'il n'y a pas d'enfer, alors que vous êtes assis chaque jour dessus, 12 800 kilomètres d'épaisseur, juste en dessous de vous, de matière volcanique. Et alors, vous regardez en haut et vous défiez Dieu et sa parole. Quand vous défiez la parole, vous défiez Dieu, c'est vrai. Oh là, combien tu es grand Seigneur, combien nous devrions être fidèles. Bien, ainsi les croyants de la parole et l'esprit doivent être un. Saisissez-vous cela? Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Vous ne pensez pas pour vous-même, vous n'utilisez pas votre propre intelligence. N'est-ce pas merveilleux? La pensée qui était en Christ est en vous. Vous voyez, la pensée est en Christ, et vous prenez la parole exactement comme il l'a fait, car il était la parole. Et si la pensée de Christ est en vous, vous êtes la parole. Vous êtes la parole de Dieu vivante, et vous êtes son représentant ici sur la terre. C'est vrai, continuons son œuvre. L'Église devrait être ainsi. Et quand c'est ainsi, la Bible est manifestée de nouveau comme au temps des disciples. Exactement comme elle le fut pour eux. La Bible vit de nouveau en vous. Maintenant, voyons. Je dois essayer d'avancer d'au moins 15 pages ici, rapidement. Et je déteste faire cela. Mais je vais avoir à passer par-dessus. Parce que si je ne le fais pas, j'en serai toujours là cet après-midi. J'ai une réunion demain. C'est pourquoi je dois me dépêcher maintenant. Bon. Maintenant, nous essaierons de faire cela juste un peu plus vite, si nous le pouvons. Nous allons le faire immédiatement. Croyez-vous? Très bien. Et quand c'est ainsi, la Bible est manifestée de nouveau comme dans les premiers jours de Christ. Voyez, car vous êtes une semence prédestinée comme Christ l'était. Et quand la pluie tombe sur cette semence, la vie se manifeste. Quand le Saint-Esprit tombe, quand il tomba sur ces semences que Jésus dit qu'il avait choisies, quand? Avant la fondation du monde, alors elles étaient une semence prédestinée, n'est-il pas vrai? Ensuite, elles se retirèrent dans la chambre rose, ces semences. La parole, et la parole se trouvait là sans vie en elle-même. Tout à coup, il y eut un bruit venant du ciel, alors que les eaux commençaient à se déverser. Et cela remplit bel et bien toute la maison dans laquelle ils étaient assis. Et les semences commencèrent à croître. Elles commencèrent à se manifester. La parole de Dieu étant manifestée. Bon, alors pourquoi les feux du réveil ont-ils diminué? Maintenant, j'ai ici environ 10 écritures. Et vous pouvez juste remarquer cela ici, que je devrais lire. Je dois en sauter beaucoup, et juste en donner quelques-unes pour que vous en connaissiez les grandes lignes. Bon, alors pourquoi les feux du réveil ont-ils diminué? Maintenant, je dois faire appel de non. Je ne le ferai plus après ceci, à moins que Dieu me le dise. Mais je dois faire appel de non. Je dois dire des choses que je préférerais ne pas dire, mais afin de rendre ceci clair, vous pouvez voir maintenant où j'en arrive, la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. Je crois que ceci est la parole. Et je crois que Christ a une église. Et que l'église est le champ, nous y viendrons dans un moment, où vous devez placer la parole dans le champ avant que l'esprit puisse faire quelque chose. Vous voyez? Alors pourquoi les feux du réveil ont-ils diminué? Vous n'entendez plus beaucoup parler de Billy Graham, comme des grands évangélistes d'ailleurs. Oral Roberts n'enflamme plus le pays comme il en avait l'habitude. On n'entend même plus parler de mes réunions. En voilà trois. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous allons arriver à un enseignement vraiment profond. Je vais devoir l'utiliser maintenant. Et si cette bande devait tomber entre les mains de Billy Graham ou d'Oral Roberts, je désire que vous sachiez, mes frères, que je ne manque pas d'égard envers vous. Si vous le remarquez, je m'inclus dans cela, en tant que haut frère dans l'Évangile. Et je pense qu'après ceci, vous aurez, frères, une meilleure compréhension de la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. Et j'espère que je trouverai grâce à la vue de Dieu et devant vous, en étant honnête et sincère en vous et en vous donnant la raison. Billy Graham, le monde brûlait il n'y a pas longtemps avec Billy Graham. Maintenant, vous n'en entendez parler que très rarement. Il va toujours, mais que se passe-t-il? Oral Roberts, il consumait la terre. Cela baisse. Tommy Osborne, ils sont tous de bons hommes pieux. Que s'est-il passé? Croyant que Dieu m'a appelé à un ministère, est-il arrivé au mien? Ceci va maintenant répondre à quelques questions. Qu'est-il arrivé? Vous dites, frère Branham, le vôtre est le plus mort de tous. C'est vrai. C'est juste. On entend plus parler de Billy Graham que de moi. Et on entend plus parler de Billy que de Oral. On entend plus parler d'Oral en un jour que moi en 6 mois. Tommy Osborne, Tommy X, n'importe lequel de ces hommes pieux, on en entend parler davantage. Mais en ce qui concerne le mien, il est encore moins en vue que tous les autres. Que s'est-il passé? Frère Branham, vous nous disiez que vous croyez réellement la parole et tout est bien. Que vous est-il alors arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous désirons savoir. C'est ce que nous désirons savoir. Maintenant, mettez ceci dans votre esprit. Rabattez le parapluie et secouez dans la pluie et ouvrez votre cœur juste une minute. Écoutez. Souvenez-vous que la Bible dit dans Genèse, au premier chapitre, le passage que nous avons lu comme base à notre méditation de ce jour, que chaque semence produira selon son espèce. Elle devra produire selon son espèce. C'est juste. Chaque semence devra produire. Souvenez-vous que la terre est pleine de semences et que la pluie les fait produire selon leur espèce. Je crois que nous sommes près du temps de la moisson. Ne le croyez-vous pas? Vous êtes tous d'accord avec cela. Nous sommes près du temps de la moisson. Les semences ont été plantées. C'est là où nous en sommes. Les semences ont été plantées. Oh Dieu, je souhaiterais que vous puissiez voir ce qui passe alors devant moi. Les semences ont été plantées. Souvenez-vous qu'il y a un temps pour planter et ensuite un temps pour moissonner. Ils savent qu'ils l'ont dit ainsi. Très bien. Il y a eu 3 différentes sortes de semences qui ont été plantées. Une dénominationnelle, Billy Graham. Il était le planteur de tête. Oral Roberts, pour les pentecôtistes. La semence pentecôtiste a été plantée. Je parle des organisations en ce moment. Et ensuite, la parole a été plantée. Maintenant, vous devriez comprendre, mes amis. Je n'ai plus en parler, à moins que Dieu me le dise. Je veux dire que vous compreniez bien et clairement ceci. 3 semences ont été plantées. C'est la raison pour laquelle le plantage est presque terminé. Voyez-vous? Partout. Les semences doivent être plantées avant que la pluie tombe. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ou, sous d'autres aspects, l'esprit. Maintenant, vous n'allez pas être d'accord, mais attendez juste une minute. Les semences doivent être plantées, et ensuite la pluie tombe pour arroser la semence. N'est-ce pas vrai? Maintenant, je désire. Y a-t-il ici quelqu'un qui comprenne l'hébreu, qui connaît les mots d'hébreu? Très bien. Vous chercherez cela si vous le voulez. Maintenant, nous entendons tellement de choses et tellement d'organisations dire que nous sommes dans la dernière pluie. Non-sens. Ce n'est pas le cas. Maintenant, quelque chose est en train d'arriver. Je peux le voir qui passe devant moi. J'ai capté l'esprit, vous voyez. Amen. Je sais que ceci est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Une vision, vous voyez, qui se déplace et qui vient. Je peux difficilement regarder ici en bas. Chaque fois que je regarde, je la vois qui se déplace vers le haut devant moi comme cela. Elle s'immobilise et ensuite se déplace dans cette direction, comme je regarde dans cette direction. J'essaie d'observer des personnes qui sont assises en rond ici en bas. Je regarde ailleurs et partout où je regarde, la voilà. Vous voyez? Bon, retournons et voyons cela de nouveau pour être sûr que je l'ai comme il faut. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé sur toute cette ligne. Je crois que c'est près du temps de la moisson. Les semences ont été plantées. Les semences dénominationnelles des églises évangéliques, des baptistes, des presbytériens et des luthériens. Et les semences pentecôtistes ont été plantées dans l'organisation pentecôtiste par de grands hommes comme Oral Roberts, Tommy Hicks et Tommy Osborne. De grands hommes de Dieu, vous voyez. Et ensuite, je crois que la parole de Dieu a été plantée, non relatée, en dehors de ces organisations. Voilà ce qui en est, vous voyez. La plante semence doit avoir de l'eau semence avant qu'elle puisse croître. Il doit tomber de l'eau avant que la semence qui était plantée puisse croître. Maintenant, vous dites, « Eh bien, frère Branham, il y a une autre. » Je sais, c'est vrai. Je sais ce qui est votre pensée maintenant, voyez. Vous ne pouvez le cacher. Bon. Ainsi, faites attention à ce que vous pensez. La semence doit être plantée et ensuite, elle doit avoir de l'eau pour croître. Maintenant, vous dites, « Eh bien, frère Branham, je vais exprimer vos pensées sur cela. Nous avons eu de l'eau. Qu'il en soit ainsi. C'est correct. Vous avez eu de l'eau. Avez-vous déjà planté des choux, des semences ou quelque chose d'autre? D'habitude, vous, ils n'ont pas d'eau. Ils en versent juste un peu sur eux. Bon. Mais attendez maintenant. Qu'avons-nous eu dans ce temps de plantage? La première pluie. Oh, vous dites, très bon. Il doit tomber de l'eau avant que la semence qui était plantée puisse croître. Maintenant, vous dites, eh bien, frère Branham, il y a une autre. Je sais, c'est vrai. Je sais ce qu'est votre pensée maintenant, voyez. Vous ne pouvez le cacher. Bon. Ainsi, faites attention à ce que vous pensez. La semence doit être plantée et ensuite, elle doit avoir de l'eau pour croître. Maintenant, vous dites, eh bien, frère Branham, je vais exprimer vos pensées sur cela. Nous avons eu de l'eau. Qu'il en soit ainsi. C'est correct. Vous avez eu de l'eau. Avez-vous déjà planté des choux, des semences ou quelque chose d'autre? D'habitude, vous, ils n'ont pas d'eau. Ils en versent juste un peu sur eux. Bon. Mais attendez maintenant. Qu'avons-nous eu dans ce temps de plantage? La première pluie. Oh, vous dites, frère Branham, non-sens. Maintenant, attendez une minute. Vous prenez le mot première de Joël 2. Regardez et voyez si le mot hébreu. Allez à l'hébreu et voyez si vous voulez l'inscrire. M-O-U-R-E-H. Mouret. Et prenez le mot hébreu et voyez ce que vous faites. Non, attendez une minute. Vous prenez le mot première de Joël 2. Regardez et voyez si le mot hébreu. Allez à l'hébreu et voyez si vous voulez l'inscrire. M-O-U-R-E-H. Mouret. Et prenez le mot hébreu et voyez ce que mouret signifie. Enseignement. La pluie de l'enseignement s'est déversée. La pluie de l'enseignement dénominationnel s'est déversée. 1 million de plus en 44, baptiste. Un tel et un tel, nouveau membre de l'église. Oral Roberts et les autres frères, avec le mouvement pentecôtiste, le grand mouvement pentecôtiste, a augmenté jusqu'à des millions, vous voyez. C'est vrai. De même, la semence a été répandue, la parole, pour la minorité, le petit troupeau. Maintenant, observez. Souvenez-vous que le mot M-O-U-R-E-H, mouret, signifie enseignement. La première pluie, cela veut dire la pluie mouret. La pluie de l'enseignement. La pluie de l'enseignement s'est déversée. Billy Graham a frappé le monde. Les pentecôtistes ont frappé le monde. Et la parole a frappé le monde. Maintenant, où sommes-nous? Elle attend maintenant la dernière pluie. C'est lorsqu'elle produit ses fruits. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Alors, la sorte de semence que vous avez plantée dans votre champ sera la sorte de récolte que vous moissonnerez. Ces dénominations veulent plus de membres, c'est ce qu'elles vont obtenir, c'est ce qu'elles ont obtenu. Les pentecôtistes veulent plus de pentecôtistes, c'est ce qu'ils vont obtenir. Mais la parole va produire des fils et des filles de Dieu. Cela vient aussi. Observez, regardez à cette grande dernière pluie qui est supposée y avoir, comme ils couraient, sauteraient par-dessus les murs, et il y aurait comme une armée qui viendrait. Attendez juste une minute, la sorte de récolte que vous obtenez et la sorte de semence que vous mettez dans votre champ. Bon, les deux espèces dénominationnelles, vous comprenez? Les deux espèces dénominationnelles vont s'unir pour aller à Sodome. Mais la parole restera avec les élus. La semence royale. Jésus a dit, comme il arriva au jour de Sodome, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Deux anges s'en allèrent, deux prédicateurs voints s'en allèrent à Sodome pour essayer de faire sortir un homme qui avait reculé et qui avait en lui un petit rien de Dieu. Et sa femme, son épouse, vous savez ce qui lui arriva, elle fut disgraciée. Et regardez ses filles, voyez ce qu'elles sont devenues après qu'elles soient sorties. Il y a toujours un cheveu dans la soupe, vous savez que c'est juste. Excusez cette expression, mais vous savez, un peu d'humour ainsi. Cela l'a toujours été, nous savons cela. Maintenant, vous ne pouvez nier la parole de Dieu. Mais il y a eu un qui resta avec Abraham et qui lui donna un signe. N'est-ce pas vrai? Bon. L'or resta en arrière. Comment fut appelé Abraham et son groupe? La semence élue qui n'était jamais descendue. Ils étaient des pèlerins. Ils voyageaient ici, ils voyageaient là. Ils voyageaient ici, ils voyageaient là. Interdénominationnelle. Mais la dénomination descendit et se construisit une cité. Et Lot devint le prêtre, ou l'évêque, ou le... vous savez. C'était là l'homme important de la cité qui fonctionnait comme juge et qui pouvait dire « Non, nous n'aurons pas ce gars au milieu de nous. Non, monsieur, il n'est pas d'accord avec notre théologie. Nous n'allons pas la voir. » Voilà le vieux Lot. Il était assis là. Il déclarait « S'il ne porte pas sur lui de lettres de recommandation de notre Église, nous ne recevrons pas. » Qui a fait de vous un juge sur la maison de Dieu, vous, hybride ?» La parole de Dieu sera prêchée de toute façon. Saint Martin alla vers un groupe, comme celui-ci, et le responsable ne voulut même pas se lever pour l'honorer, après qu'il eut brisé la porte. Dieu alla jusqu'à lui brûler le dos de sa robe, ce qui l'obligea à se lever et saluer ce prophète de Dieu qui entrait dans la cité. C'est vrai. Le siège sur lequel il était assis, son trône, prit feu. C'est vrai. Vous avez lu l'histoire de l'Église? Oui, monsieur. Il descendit avec la vraie parole, accomplit des miracles et des signes, et prouva par la parole ce qu'il était. Ils avaient leur propre évêché, ils avaient ce qu'ils voulaient, et c'est tout ce qu'ils désiraient. Mais Dieu allait voir s'il y avait là peut-être quelques enfants élus, et devait aller les chercher. C'est vrai. Ainsi, souvenez-vous, qu'était-ce? Maintenant, arrêtons-nous ici juste une minute. Lot eut le choix, une fois, d'être lui-même interdénominationnel. N'est-il pas vrai? Il eut une fois le choix de voyager avec Abraham, mais l'amour du monde l'en dissuada. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et souvenez-vous que ceux qui étaient en bas à Sodome ne virent jamais un seul de ces miracles surnaturels. Ils étaient aveuglés, car la prédication de la parole aveugle les yeux des incroyants. C'est ce que Billy Graham et les autres ont fait. Ils ont aveuglé les yeux de ces incroyants là-bas. C'est vrai. Maintenant, vous ne pouvez nier que Jésus a dit, comme il arriva au jour de Sodome, il en sera de même à l'avènement. Et cela se trouve ici dans la Bible. Ce sera la même chose à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, observez. Mais il y en eut un qui était la parole. Il était la parole, et où était-il resté? avec ceux qui étaient prédestinés, avec les élus. La parole resta avec les élus, et la parole de Dieu aujourd'hui restera avec les élus. C'est la semence royale d'Abraham selon la promesse. Quelle sorte d'œuvre cela fit-il? Lorsque cela fut manifesté, environ 800 ans plus tard, en la personne de Jésus-Christ, ce furent les mêmes œuvres que celui-là fit là-bas, que la parole fit, à la porte de la tente d'Abraham. Il était assis, le dos tourné à la tente, et il dit à Abraham que son nom était Abraham, non Abraham, ce qui avait toujours été son nom, parce que Dieu l'avait rencontré quelques jours auparavant et lui avait déclaré. Il dit, où est ta femme? Pas S-A-R-A-I, mais S-A-R-A-H. Où est ta femme Sarah? Comme s'il ne le savait pas. Il dit, elle est dans la tente derrière toi. Il dit, je vais te visiter. Je, le pronom personnel, je vais te visiter à cette même époque. Oh! Et tu auras ce bébé que tu as tant attendu. La dernière pluie est sur le point de tomber. Tu as gardé cette semence assez longtemps, prouvant que tu attendais le Fils promis. Aussi, il vient. C'est la vraie Église aujourd'hui. Vous voyez, cette semence est lui. Vous l'avez attendu, et je vais vous l'envoyer. Qui dit cela? La parole. Oh, vous dites, ce n'était pas la parole. Je vous demande pardon. Abraham l'appela Elohim, ce qui signifie celui qui est tout-puissant et qui existe par lui-même. Il était la parole. Elohim. Vers qui est-il venu? Vers la semence d'Abraham. Maintenant, souvenez-vous, vous n'avez rien à faire avec ces dénominations. Il resta avec les élus, prêcha. C'est vrai. Et montra le signe. Et Jésus a dit, maintenant, attendez juste un petit peu. Oh! Or, Sarah rit en elle-même. Observez cette incrédulité, vous voyez. Le fait de ne pas croire cela, Dieu l'aurait tué sur le champ. Saviez-vous cela? Elle sortit et nia son acte. Elle rit sous cap. En d'autres termes, elle rit en elle-même. Peut-être qu'elle n'a jamais esquissé un sourire. Mais au fond de son cœur, elle rit un petit peu. Moi, une vieille femme, âgée de 100 ans, 50 ans après la ménopause, ne vivant plus comme mariée femme depuis près de 20 ans, j'ai 30, vous voyez? Elle dit que j'aurais du plaisir avec mon Seigneur, Abraham, son mari. C'est le genre de femme que devriez tout être. Paul a dit la même chose. Aimez votre mari autant qu'elle. N'hybridez pas quelque chose, vous voyez. Veillez à vos pensées. Nous verrons cela cet après-midi dans la méditation. Ainsi, elle aimait Abraham à tel point qu'elle appela son Seigneur. Mon Seigneur aussi est âgé, et moi je suis vieille. Pourrais-je avoir de nouveau du plaisir avec lui? Elle rit. Alors l'ange montra à Abraham qui il était et qui était la parole. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Alors il l'appela, elle dit, je n'ai jamais ri. Il dit, si tu as ri, qu'est-ce que cela? La grâce. Vous voyez, à cet endroit même, Dieu l'aurait tué, sur le champ, mais il ne le pouvait pas. Voyez-vous notre stupidité? Il tuerait chacun d'entre nous, mais il ne le peut pas. Pour tuer Sarah, il devait prendre Abraham, parce que Sarah était une partie d'Abraham. Ils étaient un par leur union. De même, prendre l'Église et la détruire, il ne peut le faire, parce qu'il est une partie de lui-même. Christ, une partie de lui-même. La parole, faite chair. Oh, une grâce stupéfiante. Il ne pouvait le faire. Vous saisissez cela? Il ne pouvait la tuer, il ne pouvait reprendre sa vie parce qu'elle était une partie d'Abraham. Vous voyez, elle fut faite chair de sa chair et haut de ses os. Dans nos fautes, ne dites pas, eh bien, j'ai eu un manquement. Non, cela ne fait pas de... Abraham eut aussi des manquements, vous voyez. Dieu ne peut rejeter son Église. Il ne peut pas tuer les élus. Il ne peut pas reprendre votre vie parce que vous êtes une partie de lui-même. Vous êtes la parole. La parole est en vous. Elle s'est manifestée et affirmée. Amour, joie, paix, longanimité, au travers de chaque parole de Dieu que vous recevez, Dieu œuvre en vous. Vous voyez, c'est une partie de la parole qui est Christ, et nous sommes enseignés qu'il est la parole, et que nous sommes chairs de sa chair et haut de ses os. Vous y êtes. Nous arrivons maintenant à quelque chose. Mourait, mourait, la pluie, la première pluie s'est déversée. Maintenant, qu'était-il arrivé? La première pluie était plantée. Puis la dernière pluie tomba. Qu'arriva-t-il? Sodome, avec ses sodomites, brûla. Et Abraham reçut le fils promis. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. L'ivraie sera liée, mise en gerbe et brûlée. Et le blé ira dans le grenier. Vous voyez, la dernière pluie est proche. Nous allons avoir, je ne veux pas m'attarder sur cette question, parce que j'ai ici quelque chose de vraiment bon sur cela. Voyez, les deux dénominations s'uniront, les pentecôtistes et les autres s'uniront, mais la parole restera avec la semence promise d'Abraham, comme elle le fit alors. Jésus a dit, ce qui arrive alors, avez-vous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, une intelligence pour comprendre? Jésus a dit, ce qui arriva. Cela n'est-il pas écrit, dirait Jésus, s'il était debout ici ce matin? Ne dirait-il pas, il est écrit, comme il arriva au jour de Sodome, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme? Ne voyez-vous pas les deux moissons qui apparaissent ici, recevant leur dernière averse? Elles sont arrivées jusqu'à cette dernière averse, voyez-vous? Ensuite, que se passe-t-il? Les anges et le Seigneur disparurent. Alors, la pluie arriva. Bon, maintenant, observez très attentivement. Je crois que j'en étais à ce sujet-là. Oui, sur la pluie. Pour la dernière pluie. Tous les signes pointent vers la fin. Maintenant, tous ceux qui croient la parole de Dieu savent cela. Même, laissez-moi m'arrêter ici sur un autre point. Je vais devoir faire appel à des noms. Je n'ai pas l'intention d'être juste, mais je promets à Dieu que je ne porterai de quoi personne. Je suis ici simplement pour exprimer avec exactitude ce que j'ai toujours su. Et cela aussi loin qu'il me permettra de le faire, car j'ai ici à la fin des choses que je vais devoir retenir. Premièrement, Madame Wood sait qu'après que j'ai reçu ceci et beaucoup d'autres pages, le Saint-Esprit me dit, ne fais pas cela. N'est-ce pas, Madame Wood, que c'est ce que je vous ai dit? Ainsi, je me retournais, et alors que je priais cette heure-là, il vint vers moi dans une vision et me dit, prends ceci et mets-le là, de côté, car ils ne comprendront pas. Le temps n'est pas encore arrivé. Place-le ici. Et je le fis, c'est vrai. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, vous voyez? Bon, l'obéissance. Maintenant, regardez, je vais vous montrer que nous sommes dans les temps de la fin. Même la parabole des vierges sages et des vierges folles est pour nous. Maintenant, regardez. La vierge folle va être l'hybride. Vous voyez? Elle avait la semence sans l'huile. Il lui manquait l'humidité pour la faire croître. Et maintenant, que fait-elle? Les deux groupes, le groupe pentecôtiste et le groupe dénominationnel du monde, les groupes évangéliques, s'unissent. Voyez-vous? Pour quelle raison? Pour aller à Sodome. Maintenant, notez bien, récoltez cette moisson. Notez la vierge folle, la vierge. Avez-vous remarqué ceci? Même un de mes grands amis, un véritable érudit, un homme cultivé, intelligent, un brillant pentecôtiste, ai-je observé mes frères chez les hommes d'affaires chrétiens qui poussaient des cris pour louer Dieu, parce qu'il y avait là des prédicateurs épiscopaux et des prêtres catholiques. Je me demande si les hommes ne sont pas profondément endormis. Réalisez-vous, ils disent, oh, c'est la plus grande chose dont on n'ait jamais entendu parler, frère Branham. Oh, ces épiscopaux viennent là, ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue, ils ont fait ces choses, gloire à Dieu. Je vous le dis, leur église a été révolutionnée. Oh, par exemple, frère, ne savez-vous pas ce que c'est? C'est le signe. Quand les vierges folles veulent de l'huile, et pendant qu'elles en achètent, c'est le moment où l'époux vient. Oh, vous, pentecôtistes, qu'y a-t-il? Enfin, vous ne pouvez pas le voir à moins que Dieu vous le montre. C'est une chose sûre. Si vous n'êtes pas né là-bas, prédestiné à cela, vous allez le manquer. Bénis sont les oreilles qui peuvent entendre. Bénis sont les cœurs qui peuvent comprendre, car le temps est proche. Chaque signe est dirigé vers cela, vous voyez? Regardez quel genre de réveil ils ont. Les grands réveils qu'ils ont eus. Cela paraît bien, n'est-ce pas? Vous dites, eh bien, frère Branham, maintenant, vous nous avez mis sur la corde raide. C'est là où je voulais que vous soyez. Comment allez-vous savoir ce qui est juste et ce qui est faux? Donnez-leur le test de la parole. C'est le seul moyen de savoir si c'est juste ou faux. C'est cela. Soumettez-les simplement au test de la parole. Voyez ce qu'ils disent de la parole. De quelque esprit qu'il s'agisse, voyez ce qu'il dit de la parole. S'il nie la parole, ce n'est pas de Dieu. Voyez-vous? Peu importe ce que c'est, s'il nie la parole, ce n'est pas de Dieu. Regardez, faites-leur subir le test de la parole et voyez ce qui arrive. Jésus nous a prévenus de ces choses. Matthieu, au chapitre 24, verset 35. Je veux simplement m'y référer à cause des bandes. Juste un moment. Maintenant, nous n'avons pas pour plus de 20 minutes environ avant que nous nous séparions. Et je suis sûr que nous n'allons même pas parvenir au tiers du chemin. Je dois lire ceci de toute façon, voyez. Matthieu 24, 35. Maintenant, écoutez vraiment attentivement ce que Jésus a annoncé. Il nous dit que les deux esprits seraient si proches l'un de l'autre que les élus eux-mêmes pourraient être séduits si cela était possible. Cela ne va-t-il pas arriver? Oui, monsieur. Matthieu 24, 35 dit, « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il dit que les deux esprits seraient-ils prêts l'un de l'autre? Il doit en être ainsi. Il doit en être ainsi. La dénomination pentecôtiste doit se comporter d'une façon si proche du réel que Jésus a dit que seuls les élus ne seraient pas séduits. Cela me tue presque. Mais mes frères des dénominations, ne pouvez-vous pas voir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Si proche que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Mais les élus qui sont prédestinés à la vie éternelle, nous allons approfondir cela dans un moment, voyez. Souvenez-vous que les élus sont la seule espèce de ce monde qui saisira cela. Bien, vous dites, comment savez-vous que vous n'êtes pas dans l'erreur? Alors, testez-moi par la parole. Venez et testons votre dénomination par cette parole. Voyons qui est dans la vérité. Éprouvez toute chose, dit la Bible. Vous dites, cela fait aucune différence d'être baptisé de cette façon que, si, cela fait une différence, c'est ce que Satan dit à Ève. Dans Actes 17, 19, nous voyons que plusieurs avaient été baptisés par un bon chrétien du nom de Jean-Baptiste. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y eut un Saint-Esprit. Il dit, alors comment avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean, le grand homme qui baptisa Jésus. Paul dit, ça ne marche pas maintenant. Car Jean a seulement baptisé pour la repentance, mais pas pour la rémission des péchés, parce que le sacrifice n'avait pas encore été offert. Et lorsqu'ils entendirent ceci, ils furent rebaptisés dans le nom de Jésus-Christ. Que cela aurait-il fait si Moïse avait dit, Dieu lui dit, ôte tes souliers, Moïse, et qu'il ait répondu, tu sais, Seigneur, je vais attacher un petit peu trop fort ce matin. Je montrerai plus de respect, je lèverai mon chapeau. Cela n'aurait pas marché. Il n'a jamais dit chapeau, il dit souliers. Et c'est le diable qui essaie de voiler cela comme il l'a fait avec Mère Ève. Chaque parole est la vérité, comme Dieu l'a écrit ici. C'est ainsi que je crois. Maintenant, vous pouvez aller de l'avant. Vous dites, eh bien, nous avons la vérité. Bon, alors allez d'avant, c'est en ordre. Si vous êtes aveugle à ce point, continuez comme cela et chancelez dans les ténèbres. Voici la parole qui va vous juger, frère, et non votre credo. Oh, sa bonne façon. Oui, monsieur, oh, sa bonne façon. Et vous dites, frère Branham, attendez une minute. Que Dieu soit béni. J'ai vu aller là-bas et guérir les malades. Oh, bien sûr, moi aussi. Oh, je les ai vus parler en langue. Oui, monsieur, moi aussi. Mais je n'ai jamais cru... Il n'y a personne qui puisse prouver cela par la parole de Dieu que l'évidence du baptême du Saint-Esprit est le parler en langue. Je désire que cette personne vienne me le prouver par les Saintes Écritures. Je lance un défi tout au long de mon ministère. Je crois au parler en langue. Oui, monsieur, mais j'ai vu des démons parler en langue, des sorcières et des sorciers parler en langue et interpréter, et qui niaient l'existence de Jésus-Christ. J'ai vu un homme qui parlait en langue et qui vivait avec la femme d'un autre homme. Il se tenait là et me regardait en face, et une vision vint devant moi. Je l'appelais à l'écart, elle reconnut les faits. Et vous appelez ça le Saint-Esprit? Vous dites, eh bien, frère Branham, ne croyez-vous pas que le Saint-Esprit parle en langue? Oui, monsieur, mais donnez-lui le test de la parole. Voyez, Jeannès et Jambres accomplirent des miracles, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Jeannès et Jambres. Lorsque Moïse descendit en Égypte, tout ce que Moïse fit au point de vue signe, Jeannès et Jambres, ces deux sorciers, purent produire la même chose, deux démons. Quand Moïse disait « Pou », il disait « Pou ». Moïse disait « Un bâton sur le sol », il disait « Un bâton sur le sol, un serpent, un serpent ». C'est vrai, il pouvait accomplir des miracles. La Bible dit que les dans les derniers jours, des démons se lèveraient accomplissant des miracles et qu'ils séduiraient les gens. C'est terriblement dur, frère. Mais vous devez connaître la vérité. Jésus a dit, beaucoup viendront à moi en ce jour et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci, et n'ai-je pas fait cela, et encore cela, et ainsi de suite en ton nom. Il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Quelque chose que vous savez être faux, et que vous faites quand même. Et vous savez que la parole de Dieu est la vérité. Pourquoi jouez-vous à l'hypocrite? À cause de votre organisation, vous prenez un petit peu ici, et vous rejetez le reste. Vous qui commettez l'iniquité, il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Maintenant c'est, soit vous pataugez au travers de l'enfer ici ou plus tard, ainsi. Maintenant, souvenez-vous que c'est vrai, c'est ce que Jésus a dit. Jeannès et Jambres résistèrent à Moïse. Souvenez-vous-en, et la Bible dit, de même qu'ils résistèrent à Moïse, dans les derniers jours, ils réapparaîtraient, ces esprits-là, de nouveau. Quand? Juste avant la libération des gens. Alléluia! C'est maintenant le temps de la libération. Jésus a dit dans Matthieu 24 qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Seuls les élus saisiront cela, juste un ici et là. Même les élus si c'était possible. De la même manière dont Jeannès et Jambres résistèrent à Moïse, ainsi le feront ces hommes corrompus dans leur entendement quant à la parole. Quant à la vérité, et la parole est la vérité. N'est-ce pas vrai? En ce moment, ce n'est pas du lait crémé, mes amis. Regardez, la Bible dit, Jésus a dit qu'il serait si proche qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Cette semence va tomber là parce qu'elle est prédestinée à tomber là. Les semences ont été semées. Les dénominations et les autres, et la parole aussi a été semée. Vous voyez? Et Jeannès et Jambres, la Bible dit que ces démons apparaîtraient dans les derniers jours et qu'ils séduiraient les gens par des miracles et des signes qu'ils accompliraient. Comment allez-vous discerner le vrai du faux? Par la parole. Même l'Ancien Testament dit, s'ils ne parlent pas selon la loi et les prophètes, il n'y a point de vie en eux. Même s'ils ne devaient nier qu'une seule chose. Alors, montrez-moi un seul cas dans la Bible où quelqu'un aurait été baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, pourquoi le faites-vous? Un credo. Hybride. Enfant mort, enfant bâtard. Deux fois mort, déraciné. Et chaque racine, chaque plante, comme mon Père Céleste n'a pas planté, sera arrachée. Les cieux de la terre passeront, mais la parole ne passera pas, dit Jésus. Voyez maintenant pourquoi j'ai pris position de cette façon. Montrez-moi un endroit déclarant que ce n'est pas une malédiction pour une femme de couper ses cheveux. Vous y voilà. Ensuite, vous me faites des histoires. Les gens disent, frère Branham est un prophète. Oh, croyez-le, aussi longtemps qu'il parle aux gens, leur révélant leurs péchés, des choses comme cela. Et quand il commence à enseigner, ne le croyez surtout pas. Eh bien, vous pauvres hypocrites, vous êtes ignorants. La Bible ne dit-elle pas que la parole du Seigneur vient aux prophètes? Je ne m'appelle pas moi-même un prophète. Je ne suis pas un prophète. C'est vous qui le dites. Je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Après cela, vous vous en retournez pour répondre une chose pareille. Ne dites pas que vous ne l'avez pas fait. Vos paroles même ont été enregistrées sur bande magnétique. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? J'attends simplement que vous disiez que vous n'avez pas dit. C'est tout ce que j'attends. Alors je vous ferai réentendre votre propre voix. De la même manière que Jeannès et Jambres, faiseurs de miracles, résistèrent à Moïse. Mais où était la parole, la vraie parole? Ces hommes accomplissaient des miracles. Ils pouvaient tout faire au point de vue de miracles. Mais il y avait là deux prophètes loin, ou plutôt un prophète et son aide. C'était Moïse, qui avait le « Ainsi dit le Seigneur ». Et à la fin, tout cela fut manifesté, avant la délivrance. N'est-ce pas vrai? Les soi-disant faiseurs de miracles moururent. Maintenant, ce qu'ils essayent de faire, c'est de produire une dernière pluie. Non-sens! Car cette dernière pluie balayera le monde, frère. Il y a eu une première pluie semant la parole. C'est vrai. Maintenant, vous verrez ce que la dernière pluie produira. Vous découvrirez qu'il y aura une affiliation. Les pentecôtistes et tous les groupes se mettront ensemble. Elles fermeront leurs portes à tous ceux qui ne les écouteront pas. Vous n'aurez même pas la permission d'ouvrir la bouche. C'est vrai. C'est quand il viendra. C'est quand il se montrera. C'est quand vous verrez une pluie. Oh, miséricorde, restez tranquille. Ne vous occupez pas de cela. Oh, mais la parole était avec ce prophète loin, parce que la parole du Seigneur vient au prophète. Dieu ne change pas sa façon d'agir. Non, non. Il ne change jamais son système. Maintenant, que s'est-il passé? Ils étaient trois de nouveau. Jeannès et Jambres s'en allèrent accomplissant des miracles, comme allant à Sodome et faisant un petit miracle pour aveugler les gens. Voyez? Il y avait avec Dieu Abraham, le oint, et son aide, Sarah. N'est-ce pas vrai? Ici se trouvaient Jeannès et Jambres accomplissant des miracles, tout ce que Moïse pouvait faire au point de vue signe et miracle. Et là se trouvait la parole de oint, le prophète, avec son aide, son assistant. Oh, je souhaiterais pouvoir prêcher là-dessus deux bonnes heures, pour le moins. Bon. Dans Genèse 1, souvenez-vous qu'il est écrit que chaque semence produit selon son espèce. Cela doit être ainsi pour toujours. Il y a tous ces types que un homme dit et croit que l'Église passera par une période de tribulation. Je me demande où vous obtiendrez une semence pour soutenir votre thèse. Vous dites, je crois que cela veut dire ceci et qu'ils feront. Bon, regardez un moment là-bas, que la pluie tomba sur l'autre espèce de semence. Sur qui est-elle tombée? Noé. Lui était dans l'arche avant que le jugement ne frappe. Lot était hors de Sodome avant que cela arrive. C'est sûr, nous n'allons pas passer par une période de tribulation. Vous allez être enlevés un de ces jours. Certainement. Pourquoi devriez-vous être jugés? Il passa par la tribulation à ma place. Lui, Jésus-Christ, c'est là que ma tribulation a eu lieu. Et oui, je l'ai accepté et je suis libre. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. C'est vrai. Moïse était avec Israël, protégé d'une façon sûre, pendant que la tribulation tombait. C'est vrai. Bon, chaque semence doit produire selon son espèce. Dieu fit l'homme à son image et selon son espèce, pour être sa parole sur la terre. Il exprima cela en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'était? Dieu en Christ. C'était un homme selon son espèce, voyez-vous? Lorsque Dieu, c'est la parole, combien savent qu'il est la parole? Quand la parole était en Christ, un homme, un être humain, s'exprimant au travers de lui, c'était Dieu, la parole en Christ, s'exprimant lui-même. Et Dieu au commencement fit l'homme à sa propre image, et c'est l'espèce d'homme que Dieu forme aujourd'hui. Le séminaire et l'incubateur, la machine à couver, produisent un tas d'hybrides, voyez, des écoles. Mais lorsque Dieu appelle un homme, il est à son image. La parole est un rendu vivant en lui. C'est vrai. Le voilà, c'est l'homme de Dieu, un homme à son image, à son entière ressemblance. Et Jésus a dit qu'il ferait les mêmes œuvres que lui. Ainsi, Dieu fit l'homme à son image, selon son espèce. Son espèce. Quelle est son espèce? La parole. Il est la parole. Alors, si un homme nie la parole de Dieu, comment peut-il être à l'image de Dieu? Je pose simplement la question. Comment pouvez-vous être à l'image de Dieu et nier sa parole, alors qu'elle est l'expression de lui-même? Oh, dit-il, cela ne veut pas dire cela, l'image exprimée de Dieu. Il dit, oh, j'ai dit cela, mais je n'ai pas vraiment voulu. J'étais dans l'erreur, mais je me rétracte. C'était seulement pour un autre temps. Ce n'était pas mon intention. Oh, miséricorde, déchet, l'avance du diable qu'il donna à manger à Ève. En tout cas, ne le laissez pas fourrer cela en bas le coup des élus. Non, monsieur, ils ne croiront pas cela. Viens seulement et joins-toi à notre gang. Ne joignez rien, vous devez naître, pas joindre, mais devenir une nouvelle créature. Oui, vous devez être à son image, selon son espèce, afin d'être sa parole exprimée sur la terre. Jésus était la parole de Dieu exprimée. Voyez-vous cela? Alors, que devons-nous être? Des fils de Dieu aussi, avec la parole exprimée dans l'Église, continuant, c'est le corps mystique de Christ, continuant la même œuvre que Jésus lorsqu'il était sur la terre. Voyez-vous? C'est cela l'espèce selon son espèce. Maintenant, vous pouvez avoir l'espèce luthérienne selon la luthérienne, l'espèce méthodiste selon la méthodiste, l'espèce catholique selon la catholique, l'espèce pentecôtiste selon son espèce, l'unitaire et la trinitaire selon la leur. Mais si vous êtes l'espèce de Dieu, c'est différent. Vous voyez, vous êtes l'image exprimée de la parole se rendant manifeste. Oh, par exemple. Mais cela doit être ainsi. Si l'eau tombe sur cette espèce-là, c'est ce qu'elle produira. Alors, Dieu fit l'homme à sa propre image. Je ne pense pas que j'ai le temps de développer ce point. C'est captivant, mais toutes les paroles de Dieu sont merveilleuses, vous voyez. Oh, regardez ici, où j'étais censé être au moment du dîner. Je suis à peu près à ça, vous voyez, environ en sixième. Bon, laissons cela un moment. Qu'en dites-vous? Maintenant, combien peuvent revenir cet après-midi? Levez la main. Bon, je ne veux pas vous garder trop longtemps pour ne pas vous épuiser. Maintenant, vous, les jeunes qui enregistrez, laissez tourner les bandes juste une minute, et je les arrêterai moi-même ensuite. Bien, monsieur. Maintenant, notre dernière pensée ici est que Dieu fit l'homme à son image et selon son espèce. Dieu fit l'homme selon son espèce. Saisissez-vous cela? Un homme selon son espèce. Eh bien, quelle espèce d'homme était-il? Si vous regardez en arrière et voyez ce qu'il était quand il fut fait chair, c'est là l'espèce d'homme qu'il a fait. N'est-ce pas vrai? Un homme son espèce. Amen. C'est vrai, n'est-ce pas? C'était son espèce d'homme. Il dit une fois à un homme, tu es selon mon cœur. Un homme selon son cœur, David. Vous souvenez-vous de cela? L'Esprit de Dieu est en David. David, un roi rejeté. Le roi est toujours rejeté. David, le roi rejeté, monta sur la colline lorsque son propre peuple. Je prêcherai là-dessus ces trois prochaines minutes. Quand le propre peuple de David devait être sa propre espèce, le détrôna, son propre fils, et le chassa du trône. David s'en alla là-bas, et même l'un d'eux sortit et cracha sur lui. Sur ce roi ouin. Ce vieil homme s'avance, tout estropié dans sa doctrine. La Bible dit qu'il était estropié, vous savez. Elle s'avance en crachant sur le roi. Observez Christ. En crachant sur lui. Ce messager à son côté, un ange le représentant, sortit son épée et dit, la tête de ce chien doit-elle rester sur lui? De cracher ainsi sur son roi. Cet ange dit, je vais le frapper à mort. David dit, regagne ton épée. Je dois accepter cela. Il alla sur le sommet de la colline de Jérusalem, regardait en bas, un roi rejeté, et il pleura. 800 ans plus tard, le fils de David, l'esprit qui était en partie sur David, se tint debout sur la même colline, un roi rejeté sur lequel on avait craché. Et dont on s'était moqué. N'est-ce pas vrai? À cet ange qui marchait à côté de lui, lorsqu'il montait au calvaire, et qui dit, la tête de ce chien restera-t-elle sur lui? Je peux m'imaginer Dieu lui dire, laisse-le tranquille. Oh là, il y a un autre temps qui arrive, Mais qu'en fut-il de David quand il revint? L'histoire changea. David revint porté en triomphe. Cet homme courut, criant miséricorde. Bien sûr, laisse-le tranquille. Il reviendra un jour en puissance. Alors, le rire changera de côté. C'est vrai, laissez-les tranquilles. Mais Dieu dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Lorsque Dieu crée un homme, il est de son espèce. David a dit, je vais cacher ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche contre toi. La seule chose dont il avait besoin était la pluie. David aurait été en ordre, il avait eu simplement cette pluie. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Il avait la parole, et la parole était en lui, mais il ne pouvait la connaître. Il dit, je l'ai cachée dans mon cœur, Seigneur. Elle ne peut s'épanouir et agir comme elle devrait. Mais je l'ai cachée là, Seigneur. Je l'ai cachée. Mais quand Jésus vint, lui qui était la parole rendue manifeste, il en fait sortir le germe de vie et le ramena à la parole. Oh, si la coupe de David déborda, que devrait faire la nôtre, après avoir reçu l'Esprit. Amen. N'est-il pas merveilleux? L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Merveilleux. Jésus, mon Seigneur, n'est-il pas merveilleux? Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu ce qui est enregistré dans la parole de Dieu. Jésus, mon Seigneur, n'est-il pas merveilleux? Ne l'est-il pas? Combien l'aime? Combien l'aime? Oh, il est merveilleux. Maintenant, c'est fruste, mes amis. C'est très fruste. Ce n'est pas mon intention d'être ainsi. Oui, j'espère que vous comprenez, vous voyez. Mais aujourd'hui, j'exprime la raison pour laquelle j'ai fait les choses que j'ai faites. Maintenant, voici juste une petite explication avant que nous nous séparions pour aller dîner. Je veux que vous sachiez que mon motif et mon objectif ont toujours été la parole de Dieu. Mon motif est de lui plaire. Ainsi, je ne peux pas écouter tout ce qui se dit autour de moi et croire la parole de Dieu. Je ne peux pas non plus tout écouter et plaire à Dieu. Mon motif est de connaître sa parole et de plaire à Dieu en le servant par sa parole. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre. Maintenant, chaque personne ici qui est née de l'Esprit de Dieu et qui fait partie des élus était peut-être dans le passé soit méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste ou quelque chose d'autre. Vous savez cela. Ainsi, vous voyez, quand vous dites « allez vers eux », c'est ce que vous devez faire. Il y aura un jour une récolte que si vous semez la semence. Elle tombera, certains retourneront d'où ils viennent et diront « ah, il n'y a rien d'autre qu'un, c'est un séducteur. N'ont-il pas dit la même chose au sujet de notre Seigneur ?» C'est sans intérêt. Bien, alors, pourquoi ne le vérifiez-vous pas avec moi? Il n'y a rien d'autre qu'un séducteur. Alors, vérifiez cela avec la parole. Voyez, si ce n'est pas la parole, alors c'est trompeur, voyez. Maintenant, si votre théologie est différente de la parole, alors ce n'est pas juste. Maintenant, d'autres passeront et diront, eh bien, vous savez quoi? Je crois que j'essaierai cela pendant un temps. Il étouffera. C'est vrai. Mais quand vous videz réellement et que vous dites, Seigneur Jésus, que ce ne soit plus moi, mais que ce soit toi qui règne sur moi dès maintenant. Alors cela va produire 100 fois plus. Vous croyez cela? Je le crois aussi. Mais avec la liberté et la justice pour tout. C'est vrai. Oui, monsieur. Je vous obéissance à mon Seigneur. Vous voyez, pour prêcher sa parole et pour rester avec sa vérité, même si cela me coûte la vie, je continuerai de la même façon. Ce serait une grande chose pour moi. Ce n'est pas mon désir, mais si je devais le faire, de mêler mon sang à cette terre, comme ceux qui ont mêlé le leur pour la même cause. Comme ceux qui moururent dans la fosse aux lions, comme ceux qui moururent sur des croix, comme ceux qui furent sciés, ceux qui furent mis à la porte de leurs organisations et qui errèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, et dans le besoin. Ce serait un grand privilège pour moi d'être comme les disciples de Christ, qui retournèrent et comptèrent cela comme une joie, parce qu'ils avaient pu supporter l'opprobre qui était attiré sur son nom. Il ne pouvait endurer ces petites souffrances pour lui. Je ne veux pas souffrir, personne ne veut souffrir. J'aimerais joindre mes mains avec toutes les dénominations à dire, « Frère, allons-y, j'aimerais faire cela, mais si je le fais, j'ôte ma main de la sienne. Loin de moi l'idée de faire cela. Si je reste seul, je resterai avec lui et sa parole. Comme Eddie Pruitt le disait, sur Christ, le solide roc, je me tiens. Tout autre terrain a du sable mouvant. Et Christ est la parole. Au commencement, et qu'est-ce? Chaque parole produit, chaque semence produit selon son espèce. La semence dénominationnelle produira selon son espèce. L'organisation pentecôtiste produira selon son espèce. Les baptistes produiront selon leur espèce. Qu'est-ce? L'organisation, toujours et encore. Je leur montrerai cet après-midi, Dieu voulant, comment ils commencèrent et ce qui en fut la cause, et où la Bible dit qu'ils le feraient et comment ils finiraient, exactement ce que sera leur fin. Que Dieu vous bénisse, vous tous dans les voitures. Il y en a beaucoup qui sont dans les voitures, qui n'ont pu entrer et qui écoutent au travers de ce micro. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes debout le long des murs ou assis ici ce matin. J'espère que par la grâce de Dieu, je n'ai offensé personne, mais je me rends clair. Maintenant, si vous croyez dans la parole que j'ai prêchée ce matin, ne voudriez-vous pas avoir la même position? Bien sûr, vous le voudriez. Courbons nos têtes juste un moment. Père Céleste, nous n'essayons pas de terminer cette réunion, mais de faire simplement une halte pour nous reposer un peu pendant quelques instants. Et maintenant, puissent ces semences qui ont été semées ce matin être tombées dans un bon terrain fertile. Puissent-elles produire en abondance, Seigneur, une abondance de vie éternelle. Maintenant, nous prions, Père, que tes semences qui ont été semées restent et attendent que la dernière pluie tombe. Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvelleront leur force. Ô Dieu, puissions-nous ne pas devancer la parole, mais rester avec elle. Accorde-le-nous, Seigneur. Maintenant, bénis-nous, et pour ceux qui s'en vont manger, je te prie de leur donner la nourriture nécessaire et de la bénir. Donne-leur de nouvelles forces et ramène-les très tôt cet après-midi, Seigneur. Puisses-tu être assis ici dans le temple, dans l'attente, et puisses-tu m'aider alors que je vais prier et que je reviens. Je te prie de moindre tout à nouveau cet après-midi. Accorde-le-moi, Seigneur, pour que je puisse supporter, que je puisse apporter ce que je crois être ta parole pour les gens. Accorde-le, Père. Je te prie de bénir notre cher pasteur bien-aimé, Frère Neuville, notre précieux frère qui va dans quelques minutes entrer dans l'eau ici avec un groupe de personnes pour les baptiser. Et Père, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui a été baptisé autrement que selon le baptême chrétien pratiqué par ton grand serviteur Paul, qui témoignait qu'il avait la parole de Dieu en lui par ses mots, qu'un homme ou un ange, même un ange venant du ciel, comme Satan qui était en forme d'ange, vient et vous dit quelque chose de différent que ce qu'il a dit, qu'il soit anathème. Père, nous savons que cela est écrit dans les Écritures, et je te prie, Père, que cela descende dans les cœurs de ceux qui m'écoutent, et qu'ils comprennent que Paul est celui qui conduisit et ordonna aux gens qui n'étaient pas baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés de l'être à nouveau. Puisse cela trouver un écho dans leur cœur, Père. Puisse-t-il réaliser que ce service de baptême est bien scripturaire, sachant qu'ils ne peuvent produire une seule parole de l'Écriture pour soutenir leur idée trinitaire de trois dieux. Père, bien sûr, nous croyons que tu es une trinité des offices de Père, Fils et Saint-Esprit. Assurément, nous croyons cela. Seigneur, mais sans faire de toi trois dieux, nous reconnaissons en toi un seul Dieu qui remplit trois offices, celui de Père, de Fils et de Saint-Esprit, et que le nom de ce Dieu est Jésus-Christ. Maintenant, c'est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Père, puissent les gens voir cela être obéissants au baptême d'eau pour la rémission de leurs péchés, et puissent ces quelques mots sur le baptême tomber profondément dans le cœur de chacun. Car nous ne savons pas pour combien de temps nous en avons, Père. Cela devient très proche.